Les sportifs, ils peuvent se foutre de ma gueule s'ils veulent. S'ils veulent. Ça me gêne pas, mais moi je me fous de la leur.
Bumpy.
Bonjour et bienvenue dans l'épatant podcast Omnisport, le podcast qui parle du sport au passé et du passé à l'imparfait. Ce mois-ci, nous allons revivre ensemble la construction d'une équipe de basket de légende, les Bad Boys, surnom donné à la fin des années 80 à l'équipe des Pistons de Détroit. Isaiah Thomas, Joe Dumars, Dennis Rodman, Adrian Dantley, Bill Laimbeer,
Michel Indurain, bravo.
Et Michel Indurain. Ces mauvais garçons sont arrivés au sommet de la NBA en assumant un style de jeu vicieux et provocateur. Mais pas que. L'histoire des Bad Boys, c'est aussi l'histoire d'une équipe solide et soudée, prête à tout pour gagner et qui deviendra la meilleure équipe de NBA pour deux saisons. Et pour revenir sur l'ascension de cette équipe que beaucoup ont adoré détester, je ne suis pas seule ce soir. Bonjour Chloé.
Salutations.
Olivier.
Bien le bonsoir.
Bonjour Thibaut.
Bonsoir à tous.
Et bonsoir Younes.
Salut à tous.
Je suis très heureuse de vous retrouver et pour commencer cet épisode, je vous demande d'applaudir l'équipe des Pistons de Détroit.
Here's the thing that people do not want to admit. The Pistons in 1989 and 1990 were the best team in basketball. I don't care how physical they were, how mean they were the best team.
Alors j'espère que vous avez tout compris. En tout cas, le cadre est posé. Les Bad Boys ont été à une époque la meilleure équipe de basket de la NBA.
Oui. NBA, yeah.
Et ouais. Bro. Et avant de revenir sur cette histoire, une question très simple. Qu'est-ce que ça vous évoque, les Bad Boys? Et j'ai envie de commencer par Younes, parce que c'est toute son enfance.
Ouais, c'est des souvenirs. C'est des souvenirs. En fait, j'étais ultra fan d'une autre équipe.
Ah, oh,
ouais,
non.
Ouais, mais en fait, cette autre équipe n'a été le sommet à un moment donné de la NBA que parce que les Pistons ont existé. Et effectivement, j'ai été fan des Bulls. Chicago Bulls. Et les Bad Boys ont fait, en fait, l'adversité qu'il fallait pour qu'à un moment donné, il existe une légende, celle de Michael Jordan. Mais sans eux, et on va le découvrir.
On fait pas de mayonnaise.
Merci Olivier, je peux pas parler après ça.
Et ben donc Olivier, les Bad Boys.
Les Bad Boys, moi ça me rappelle Will Smith et Lawrence Fishburne, ça me rappelle aussi I Am. Ça me rappelle pas vraiment les clubs de basket. Moi j'ai vécu au rythme du multiplex Ligue 1, Ligue 2 sur Europe 1. Donc je suis arrivé très tard dans le basket. Ça fait 2 ans, à peu près maintenant que je suis à la NBA.
Oh bibou.
Oui, je suis un petit peu et j'adore ça. Et en travaillant un petit peu sur le sujet, j'ai évidemment m'offrir la casquette des Pistons. J'ai adoré.
De façon obligatoire. Ouais.
Ah bah c'est essentiel. J'ai adoré travailler sur ce sujet et les Bad Boys, maintenant, ce que ça m'évoquerait, c'est la victoire d'une équipe sans star, mais avec beaucoup, beaucoup de travail face à une NBA en pleine mutation.
La besogne.
Et toi, Chloé?
Alors, en soi, les Bad Boys, ça m'évoque absolument rien. J'ai jamais suivi de match de basket ni rien.
Eh bien, merci pour ce podcast.
Voilà, au revoir. Même si dans mon boulot, je suis régulièrement confrontée à des matchs de basket. Enfin, ça m'arrive de temps en temps. Et en fait, ça m'a rappelé que c'est un sport que j'ai aimé pratiquer quand j'étais jeune, même si je ne l'ai pas fait longtemps, parce que je souffrais d'une maladie qui s'appelle le ballon qui t'arrive très très vite dans la face.
Et qui te fait saigner du nez.
Voilà, moi je réceptionnais avec mon front plutôt qu'avec mes mains, mais j'adorais ça et je trouvais ça super cool.
Et toi, Thibaut?
Alors, moi, les Bad Boys, ça m'évoque les méchants qui gagnent contre les gentils. Et ça, on ne sait pas trop si on aime, mais on en a quand même besoin. Dans le sport, comme dans tout, dans la vie en général.
Ah, bah si.
C'est beau.
Younes d'ici. Alors, je n'ai pas l'âge de Younes, donc je n'ai pas connu les Bad Boys à leur sommet. Mais j'ai vécu, en revanche, les épopées ensuite des Bulls. Et pas de Bulls sans Bad Boys de Détroit. Donc, évidemment, non, c'est une équipe fabuleuse et une équipe sans star. Comme le disait Olivier, c'est toujours fabuleux de voir une équipe sans star gagner un titre, ouais, et même 2.
Et toi, Sarah?
Ah bah moi, les Bad Boys, en partie à cause de PO, ça m'évoque ça.
tu reconnais bien le style des bad boys.
Tempérament fatigué, on est né sous le soleil.
Tu reconnais bien le style des bad boys.
Chaque jour que je fais à 3h, j'ai encore sommeil.
Tu reconnais bien le style des bad boys.
Au lever, poste à fond, du bon son dans les oreilles.
Tu reconnais bien le style des bad boys.
Et le soir, dans les renards se ruent sur l'oseille.
Tu reconnais bien le style des bad boys de Marseille.
Eh oui.
Eh oui.
NTM donc.
Ah oui.
Presque. Non mais donc les bad boys en NBA, honnêtement, ça je connaissais pas. Ça ne m'évoquait rien. Je regarde pas trop la NBA. La NBA pour moi c'est en gros c'est Space Jam. Ouais. Je sais pas si ça rend vraiment hommage à la NBA. Ou à Michael Jordan non plus. Bref,
ça rend hommage à tout ça et à Bill Murray aussi.
Ouais,
surtout à Bill Murray. Ouais.
Mais j'ai beaucoup aimé travailler sur cet épisode. Je trouve ça très intéressant. C'est vraiment une vraie épopée, une vraie aventure, une vraie belle histoire à raconter. Ouais. Et je suis très contente de la partager avec vous ce soir.
Surtout parce que t'es bien payée aussi.
Et parce que je suis la mieux payée d'entre vous ici.
T'es la seule payée, oui.
Alors, c'est parti. L'histoire des Bad Boys. C'est en fait l'histoire des Pistons de Détroit dans les années 80. Mais je vous propose de faire un tout petit peu d'histoire pour commencer. On adore l'histoire et remonter un peu le temps. Nous sommes en 1941 et c'est la création de cette équipe de basket.
Donc c'est la création de la franchise à Fort Wayne, donc à 300 km de Détroit à l'époque, donc par un industriel du nom de Zollner qui veut faire de la pub pour des pistons. On ne s'est pas du tout douté.
Et oui, son entreprise de pistons, hein. Ouais. Voilà, ouvrez des entreprises de pistons, ça marche visiblement très bien, en tout cas aux États-Unis. Du coup, on est vraiment en mode basket obscur encore à cette époque-là. NBA n'existe même pas encore. Etc. dans les années 50, même 49 ou 48, je crois. Les Zollner, donc, il appelle tout simplement son équipe les Zollner Pistons de Fort Wayne. Donc, il met quand même son nom, ok.
Il met accessoirement la ville à la fin.
Oui. C'est comme, comment va ton équipe de pétanque, d'ailleurs?
Très bien. Ouais,
les Dudley Tigers d'Orléans.
D'Orléans. Ouais, ils vont très, très bien.
Oui. Puis alors, moi, les Chloé joints de culasse, ça va pas.
Alors, Chloé a dit le mot franchise. Oui. Est-ce qu'on peut dire en un mot ce que c'est une franchise ?
Ouais, c'était plutôt proche d'une marque plus que d'une équipe telle que on la rattache en Europe à une ville. Donc, on a des exemples aux États-Unis qui est un système entre guillemets de tournois et un système de classification qui est en ligue fermée. Contrairement au système de relégation que l'on peut avoir en Europe, où une équipe, quand elle a de très mauvais résultats et qu'elle se retrouve dernière à la fin d'un championnat, se retrouve reléguée dans une division inférieure.
Comme Toulouse, par exemple.
Par exemple. C'est pas encore fait. Mathématiquement, c'est pas encore fait.
Donc, si je comprends bien, pour être clair, une fois que normalement tu es dans la NBA, tu peux pas en sortir, en fait.
Alors, financièrement, quand tu es validé par une sorte de board, qui est une sorte d'organisme qui verrouille tes comptes, eh ben, tu n'en sortiras pas parce que financièrement, tu peux subvenir, entre guillemets, à tes besoins et aussi, en fait, aux dépenses financières qui incombe au championnat.
En vrai, il y a eu pas mal d'équipes qui sont sorties, surtout au début.
Oui.
Maintenant, on est un peu dans une période où c'est plutôt stable.
C'est plutôt stable depuis
quelques temps. On a les 30 mêmes équipes. Oui. On a aussi, et c'est tout l'intérêt de la franchise, des noms de clubs, enfin des clubs qui vont s'exiler.
Exactement.
Donc ça nous permet de faire une transition tout
trouvée.
Ah, elle
est géniale, c'est celle que j'allais faire.
Vas-y alors.
Qui est que la franchise peut d'une ville passer à une autre ville. On est vraiment...
Comme si l'OM allait s'installer à Nice.
Ouais, c'est ça. On est vraiment sur un... C'est important pour comprendre ensuite la suite, de l'émission, de comprendre le système américain qui est que... Un club est vraiment dirigé comme une entreprise et que si la ville, il y a plus d'intérêt d'aller dans une autre ville, on changera sans problème.
On a notre exemple du soir qui ne choque pas par rapport à son déménagement futur. C'est les Pistons de Fort Wayne et qui vont déménager un jour à Détroit.
Ouais. En 57,
ouais. Exactement. 57.
En fait, l'équipe commence à faire des bons résultats. Elle est en finale de NBA en 55-56.
Donc, il y a une expansion, logique.
Et voilà. Donc, on se dit qu'il faut une ville un peu plus grande.
Pour avoir plus de public.
Voilà, exactement. Et donc, ils vont à Détroit. Et donc, c'est ainsi que naissent les Pistons de Détroit.
À savoir, oui, que la ville de Détroit est appelée souvent Motor City. Donc ouais. C'est une ville avec un creuseau industriel autour de l'automobile, qui est un peu le fer de lance de l'économie américaine.
Et à l'époque.
Pour le coup, à l'époque, oui, aujourd'hui c'est plutôt une catastrophe industrielle, mais à l'époque, c'était quand même plutôt logique que les Pistons se rapprochent de Détroit parce que c'était aussi un creuseau industriel automobile.
C'est vrai que moi je dis les Pistons.
Tu dis les Pistons.
Ouais, mais après, Sarah, oui.
C'est ton côté international.
T'as grandi aux États-Unis jusqu'à l'âge de 18 ans.
Bah oui, vu Milwaukee.
Il est assez rare pour souligner que Sarah a fait presque un sans faute sur les noms.
Moi, j'applaudis.
Je vous rappelle qu'on était sur un Michel Hidurin il y a encore quelques temps. Okay.
En tout cas, les résultats de ces petits Pistons de Detroit sont assez décevants hein, pour le début.
Oui, complètement. Voilà, complètement. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise?
Ils sont mauvais.
Non, en vrai, ils sont pas si mauvais que ça. Ils commencent dans les années 70. Ça a touché un peu du doigt les playoffs sans aller très très loin. On va revenir sur les règles pour ceux qui n'y connaissent vraiment rien, mais Meisner, il se dit que donc l'industriel qui s'est rapproché, enfin juste une parenthèse, il s'est rapproché aussi de Détroit parce que ça l'arrangeait lui aussi hein.
Oui, bah ils vendent des pistons et c'est pas genre culture, t'es pistonné, c'est genre un oui. Piston de voiture.
Personne n'a osé la faire.
Et du coup Zollner il se sépare de la franchise en 74 au profit de William Bill, pour les intimes, Davidson, qui va, pour une de ses premières décisions, déplacer l'équipe d'un stade à un autre. Il faut savoir qu'avant ça, les Pistons de Détroit jouaient et partageaient son stade, je crois, avec les Red Wings. Il y a plein d'équipes à Détroit, les Red Wings, qui est une équipe de hockey. Et là, ils vont jouer en 78 dans le Pontiac Silverdome, stade. Qui est quand même à 50 bornes
de Sochaux.
De Sochaux. Voilà, donc en fait, ils jouent à Besançon.
Thibaut évoque Sochaux et en fait, c'est un club en France qui portait un petit peu la bannière du groupe. Groupe Peugeot, donc un groupe automobile, et c'était quasiment le seul club en France qui avait un peu cette étiquette de club marque. Aujourd'hui, on a des clubs qui ont l'étiquette Red Bull, et il y en a beaucoup en Allemagne en fait, et en Autriche. Et effectivement, ça commence peut-être un petit peu à gratouiller un petit peu les instances européennes du sport de transformer les équipes en franchise.
Alors, je suis très contente parce qu'on a dit qu'on avait beaucoup trop de notes pour l'épisode de ce soir, donc il fallait essayer de faire plus court.
Et on détaille encore plus les notes.
Et on dit quatre fois plus de trucs que ce que j'ai sur mes fiches. Bon, alors, il va donc falloir...
Oui, on a parlé de Sochaux, et ça, c'est important.
Et ça, j'avais prévu de le placer, sachant qu'on est quand même à la 8e prise, là, pour les auditeurs.
Non, mais c'est vital. Allez, Sarah.
Il faut donc attendre les années 80 pour que la franchise décolle vraiment. Donc, c'est l'histoire qu'on va vous raconter aujourd'hui, mais avant ça, on va parler un peu de NBA, de manière très simple, hein, pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup. Est-ce que Thibaut, tu peux nous dire quelques mots sur comment ça se passe, mais vraiment très rapidement, les grandes lignes.
Je vais être très rapide, comme jeu, ces lettres.
Et concis.
La NBA, une saison NBA. Bah, au début, vous avez des matchs qui comptent pour du beurre, finalement. Des matchs, des sortes comme des matchs amicaux que vous connaissez en Europe. Et ensuite commence la vraie saison, la saison régulière de NBA. Donc là, il y a 30 clubs qui ne sont donc des franchises, si vous avez bien suivi, et non pas des clubs. Et ces franchises sont divisées en deux ligues de deux régions, l'Est et l'Ouest des États-Unis et du Canada.
Donc d'un côté Sochaux et de l'autre Toulouse, quoi.
Voilà, Sochaux et Toulouse. Sochaux et Toulouse s'affrontent pendant 82 matchs aller-retour. Donc ça fait beaucoup de Sochaux-Toulouse, Toulouse-Sochaux.
Tous les États-Unis s'affrontent les uns avec les autres.
Voilà. Tous les États-Unis.
Et il y a aussi des franchises
canadiennes. C'est des matchs à 14 millions contre 14 millions de joueurs.
T'es sûr qu'il y a 28 millions de...
Non, il y en a beaucoup plus, mais là je parlais juste de Dallas.
Ah, pardon.
Non, donc là où on voit que c'est vraiment un championnat de la démesure, c'est qu'ils disputent 82 matchs. Je sais pas si vous vous rendez compte.
C'est
alors certes,
fou.
Le basket, c'est peut-être moins fatigant physiquement qu'un match de foot ou de rugby, mais c'est quand même
énorme.
Ils
jouent tous les deux jours.
Et à la fin de ces 82 matchs, quand ils se sont tous affrontés les uns contre les autres plusieurs fois, on a les 16 meilleures équipes de la saison sur les 30 qui disputent les playoffs, qui sont des sortes de phases finales pour les meilleures équipes de la saison.
Ça fonctionne.
Mais chacun de leur côté.
Mais cette fois-ci, on sépare l'Est et l'Ouest.
Ça Exactement. Fonctionne avec des ligues séparées, donc là cette fois-ci l'Est et l'Ouest. Et effectivement, on est en mode tournoi. Et ce mode tournoi, en fait,
quart, demi,
voilà,
finale,
favorise quand même les têtes de série. On est sur les premiers qui affrontent les derniers d'en face.
On est un peu comme le top 14 pour le coup.
C'est un petit peu comme le top 14, effectivement. Ouais.
Et il va y avoir un champion Est, un champion Ouest.
Donc Sochaux-Toulouse.
Sochaux-Toulouse. Et bah, il va quand même falloir les départager. Et donc, il y a la grande finale.
Qui est un Sochaux-Toulouse.
Le championnat, Sochaux-Toulouse. C'est le championnat du monde de basket à l'américaine. Donc, ils s'affrontent sur une série de matchs.
Voilà.
Donc,
et
jusqu'à
voilà, oui,
matchs.
Peut-être qu'il faut,
quelque chose
peut-être
qu'on
qu'il
vous
faut
a
le...
pas expliqué.
Pardon, vas-y.
C'est qu'à chaque fois que les équipes s'affrontent en play-off, elles s'affrontent au meilleur des 7 matchs. Il faut arriver à 4 victoires pour gagner sa série contre l'adversaire et passer au tour suivant. suivant.
Alors, pour pas qu'on nous tape sur les doigts au cas où, il y a eu une époque où les premiers tours de play-off allaient gagner 3 matchs et pas 4. Ça, ouais. ça a évolué, etc.
C'est soit meilleur des 5, soit meilleur des 7. Oui. Maintenant, voilà. c'est toujours meilleur des 7. De même, c'est tout ce que je voulais dire. Voilà, merci.
Voilà, mais merci Olivier. C'est très important.
On va encore le dire. Il n'y a pas toujours eu 30 équipes. Il y en a eu moins avant, etc.
Oui, bah,
etc.
Écoute, les gens y râleront. Hein. Ils adorent ça.
Des commentaires.
Un mot quand même, parce que je sais que Younes, il tenait. Il y a quelque chose dont on entend quand même parler en France, dont on a entendu parler d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça.
Tu parles de la
c'est
draft.
Le All-Star Game.
Ah, le All-Star
perdu.
Game. Ben oui, pardon.
Un petit mot, parce que de temps en temps, quand même, c'est un peu
c'est
différent.
C'est une forme de match de mi-saison dans lequel, en fait, on prend les meilleurs joueurs qui sont souvent sélectionnés par le grand public. Donc, il y a une forme de loterie dans laquelle, en fait, on met en avant certains joueurs selon les statistiques. Et puis, le grand public vote pour pouvoir composer la meilleure équipe. Donc, une équipe de basket, c'est 5 joueurs. Donc, on va décider d'un 5 majeur.
Ouais.
Et ce 5 majeur est décidé un peu par le public. Et c'est souvent...
Et c'est S contre Ouest quand même. Là. C'est les 5 meilleurs joueurs de l'Est contre les 5 meilleurs de l'Ouest.
Avec les remplaçants.
Oui, exactement.
Exactement.
Par exemple, si vous suivez un peu le basket, donc Tony Parker qui dispute...
Balance.
Avec les
Spurs de San Antonio.
Il le disputait non pas parce qu'il était le plus populaire, mais il le disputait parce qu'il était sélectionné par les coachs, parce que les coachs avaient le droit à un joueur
Merci
en plus.
Merci de préciser ça.
Oui, maintenant, il y a la team. Là, il y a eu la team LeBron James contre la team Giannis.
Alors, on personnifie de plus en plus, effectivement. Voilà. Mais t'as raison,
c'est un
très
beau spectacle.
Ça reste quand même Est contre Ouest.
Calme-toi, Younes.
Oui. Alors, je ne sais pas si vous vouliez encore dire des choses de la NBA avant qu'on passe à ce fameux draft dont on a parlé, Younes.
Oui, je voulais juste préciser qu'en fait, les deux équipes qui sont les plus symboliques de la NBA sont les Los Angeles Lakers aujourd'hui et les Celtics de Boston.
Symboliques, vraiment ?
Parce que c'est les plus titrés, en fait.
Oui, c'est les plus titrés, mais...
Ouvrons le débat.
Tu d'aventure sur un terrain très dangereux. Je n'ai rien dit, moi, personnellement.
Eh bien, moi, je vote pour Younes.
Alors, j'ai quelqu'un avec moi de... Très bien.
Donc, on a dit que c'était une ligue fermée.
Oui.
Il y a quelque chose qui s'appelle le draft, qui est un événement très important, puisque, ou la draft d'ailleurs, je n'en sais rien. Comme c'est un mot anglais, c'est pas grave. The draft.
Oui, the draft, encore un sans faute pour Sarah.
On n'a pas un jingle pour les sans fautes de Sarah.
Je vais en préparer. Hein. Et effectivement, c'est un moment très important où en fait les équipes vont choisir des joueurs qui sortent de l'université et qui sont donc les meilleurs joueurs universitaires. Et les différentes équipes NBA vont les choisir. Est-ce que vous pouvez me dire comment ça se passe un peu plus précisément ?
Alors oui, il y a une particularité. L'équipe la moins bien classée a la priorité sur la sélection des joueurs. Du coup, ça rééquilibre entre guillemets les chances et les forces qui sont en présence. Ça permet justement de garder un championnat compétitif et de ne pas avoir tout simplement en fait tout le temps le même champion qui choisit en priorité en fait le meilleur joueur à drafter. Donc après, on a la saison du rookie. Donc le rookie, c'est ce joueur qui sort tout juste fraîchement de l'université. Et
le rookie ?
Le rookie, oui.
C'est genre Fabio Quartararo en MotoGP 2019.
C'est un peu ça.
Voilà.
Exactement. Et en fait, il a une saison dans laquelle on a une observation, mais cette observation est quand même liée en fait à la draft directement. Donc la moins bonne équipe, grosso modo, peut choisir le meilleur joueur, car elle a la priorité sur le choix, et ainsi de suite. Jusqu'à la meilleure équipe qui, à la fin, peut recomposer aussi avec, en étant assez maligne et en ayant des choix sur des joueurs stratégiquement pour compléter son équipe. Voilà.
Donc il y a un exemple qui est assez célèbre, qui est celui de Michael Jordan.
Oui.
Quand il est arrivé aux Chicago Bulls.
Chicago Bulls étant un petit peu décimé sur des dizaines d'années, arrive entre guillemets à sélectionner Michael Jordan qui fait une excellente année avec la Caroline, South Carolina je crois, ou North Carolina.
Alors en dehors de ces drafts, il y a quand même possibilité en cours de saison de faire ce qu'on appelle des trades de joueurs, des échanges de joueurs, c'est-à-dire que deux équipes peuvent dire je t'échange celui-ci contre celui-ci. J'ai l'impression qu'on a aussi le droit de dire je t'en échange deux contre un.
Oui.
Ou
exactement,
tout le monde n'a pas
possible,
la valeur.
Tu peux aussi échanger des tours de draft, justement. Tu peux dire, j'échange Younes contre mon troisième tour de draft, parce
Thibaut.
Que je sens que...
Thibaut.
Voilà. Et c'est moi qui aura le droit, par contre, de choisir le troisième en troisième la
Et
prochaine
donc,
fois.
À savoir que, en fait, c'est un système qui est mis en place en amont pour pouvoir équilibrer les forces, on l'a compris.
Bien sûr.
Mais il y a aussi d'autres systèmes qui sont là pour réguler, entre guillemets, l'économie de cette ligue qui est hyper riche et qui permet notamment de pouvoir fixer un cap de salaire, ce qu'on appelle le salary cap,
qui existe en France aussi.
Qui existe en France aussi.
Top 14.
Ouais, voilà. Pas au PSG. Hein.
Et donc, on détermine une somme globale que les clubs ont le droit de dépenser, et pas plus. Si dépense plus,
plus, ils ont une amende.
Ils ont une amende et là, à ce moment-là, on appelle ça le luxury cap.
Et alors là, justement, pour les bad boys, cette histoire de trade et de draft est particulièrement importante dans leur histoire parce qu'en fait, la construction de cette équipe, c'est presque une construction de choix parfait de draft et de trade les uns après les autres. Et c'est notamment grâce à quelqu'un qui s'appelle Jack McCloskey, surnommé...
Encore un sans faute de Sarah.
Ouais. Trader Jack, qui va être le manager de Détroit de décembre 79 à 1992 et qui va donc construire cette fameuse équipe. Est-ce que vous voulez me dire quelques mots de ce petit Jack ?
Alors déjà, il est general manager. Qu'est-ce que ça veut dire general manager ? C'est en gros, bah voilà.
C'est comme moi.
C'est comme
je manage, choisis les équipes. Vas-y, tu m'échangeras bien une Chloé contre un Younes là ce soir. Je te remercie.
Oh, c'est trop mignon.
C'est celui qui est en première ligne des négos. C'est celui qui va trader en fonction de ce qu'a besoin l'équipe. Il gère aussi tous les contrats. Et donc celui qui arrive en 79, il s'appelle Jack McCloskey. Ok.
Alors Sarah, moi je l'ai prononcé mieux que toi. Hein,
ouais, mais Sarah prononce toujours mieux que moi. C'est le vrai problème. moi que j'aime beaucoup, c'est un mec qui a quand même fait le lieutenant dans la marine pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un mec qui a quand même pas froid aux yeux. Et lui, il hésite pas. Hein. Il hésite pas à changer toute son équipe. Et il y a un truc qui me fait beaucoup rire que j'ai appris, c'est que pour la première année de trade, il propose l'intégralité de l'équipe des Pistons contre un joueur qui est Magic Johnson, qui est peut-être l'un des...
L'un des plus grands joueurs de l'histoire
de l'NBA qui joue aux Lakers à ce moment-là. Les Lakers vont refuser parce qu'ils disent bon, les Pistons c'était mignon, mais en fait on préfère Magic Johnson.
Et ils ont raison d'ailleurs.
Ils ont raison.
Et donc il y a un acte fondateur dans la construction de l'équipe des Bad Boys. Ça va être donc pendant The Draft de juin 81 et ça va être la sélection d'un jeune joueur, Isaiah Thomas. Écoutez.
La saison 1980 des Pistons, alors l'une des pires de l'histoire, permit à l'équipe d'obtenir le second choix de la Draft 1981. L'opportunité rêvée pour Jack McCloskey de pouvoir démontrer sa capacité à faire de bons choix en tant que general manager, lui qui n'avait été qu'entraîneur jusqu'à là. Mark Aguirre, l'un des marqueurs les plus prolifiques du circuit universitaire, fut sélectionné en première position par les Mavericks de Dallas. Vint ensuite le tour des Pistons de prendre leur décision.
Now the Detroit team picking second, they're not an expansion team. They've been around since the Fort Wayne Pistons. They've fallen on some tough times the last couple of years. They're looking for a player to help build their franchise. They have the second pick. Let's go to that.
Detroit picks 6'1", 180 pounds, Isaiah Thomas of the University of Indiana.
Avec leur second choix de draft, McCloskey n'eut que peu d'hésitation à jeter son dévolu sur l'autre jeune sensation du pays, un meneur du nom d'Isaiah Thomas. Malgré sa relative petite taille d'1m85, Thomas avait impressionné les observateurs par son énergie et son caractère teigneux, qui permirent à son équipe, les Hoosiers de l'Indiana, de devenir champion national en 1981.
Alors Isaiah Thomas est donc le premier un peu coup de génie de McCloskey pour construire son équipe.
On ne sait pas encore, mais ouais, effectivement, c'est un coup de génie. Ouais.
Voilà, est-ce que on peut un peu me dire ce joueur, qu'est-ce qu'il apporte, quel va être son rôle dans cette équipe? Alors,
c'est un gamin de Chicago, c'est hyper important en fait pour la suite de l'histoire, et c'est un type qui grandit dans un milieu hyper défavorisé, hyper dur, et qui a un caractère bien trempé. Au-delà de ça, c'est quand même un excellent joueur, donc il le prend pour être un meneur, c'est un peu le numéro 10 dans une équipe de football, donc c'est quelqu'un qui est très agile et qui surtout distribue vraiment très bien les ballons, et il décide de fonder entre guillemets tout son projet sur Isaiah Thomas.
Ah mais c'est un vrai coup de génie, mais c'est un coup de génie où il a eu du bol aussi, parce que Thomas...
Oh, on le sait pas encore, bien sûr. Ouais.
Thomas, c'était le premier choix des Mavericks, en vrai, c'était le premier choix de Dallas, et en fait, Isaiah Thomas refuse à un moment donné, sur une photo, de mettre un chapeau
de cow-boy
texan. Donc les Mavericks disent, ah ouais, en fait, le mec, peut-être qu'il va nous poser des problèmes,
il va pas s'intégrer,
donc il veut pas s'intégrer.
Ça se joue à rien. Il s'est un peu auto-saboté sur ce coup-là.
Donc il s'auto-sabote, mais en fait, pas du tout.
Mais ensuite, il savait, en fait.
Et ensuite, il veut pas, comme les de Chicago, il veut jouer au Bulls. Finalement, il va accepter à contre-cœur, même s'il dira j'ai essayé de saboter un petit peu mes derniers matchs, etc., pour ne pas être choisi par Chicago. C'est un mec donc qui a déjà du caractère, qui sort d'une banlieue très 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 pauvre. Il perd ses deux frères lors de Rix.
Oui. Et en fait, pour la petite histoire, il a failli devenir soit chef de gang ou soit ce qu'il est devenu en fait. un autre chef de gang finalement.
Et les rixes à Sochaux, c'est quelque chose. Hein. Ah bah, enfin, je sais pas si vous connaissez un peu la banlieue.
Mais je sais pas comme c'est dangereux.
Et non, simplement, il faut bien réexpliquer que si les Détroit Pistons ont eu le droit à ce choix de draft, c'est parce que l'année précédente, ils n'avaient pas été bons justement.
C'est que ce sont des putains de losers.
On peut le dire comme ça.
Au départ.
Et c'est aussi pour ça qu'ils ne voulaient pas forcément signer là. Et voilà, toute l'histoire vient de là.
Oui, je crois que la saison de 1981-81, c'est 16 victoires pour 66 défaites.
Ouais. Ce qui est pas
autant
bon.
Dire que tu vois pas trop les playoffs avec ce résultat-là. Et donc, Thibaut, est-ce que tu veux pas nous dire un peu, donc en novembre 81, il y a un trade, c'est Vinnie Johnson qui rentre dans l'équipe, mais il y en a encore plus important pour la construction de l'équipe en 82, c'est Billy Laimbeer qui va avoir un rôle d'ailleurs de pivot au sein de cette équipe.
Ouais, Billy Laimbeer, c'est une forme de gros méchant garçon.
Alors déjà, on l'aime bien parce qu'on aime bien son nom.
Moi, c'est mon préféré.
On aime bien William Laimbeer Jr. Alors lui, il est plutôt issu des quartiers riches de Chicago, donc l'inverse de notre ami Thomas. Il dit « Je suis le seul joueur de NBA qui gagne moins d'argent que mon père.
» C'est drôle.
Quand même. Assez drôle. Il a un certain sens de l'humour. Il est vraiment connu, reconnu pour être un joueur méchant, brutal, physique, dur. Et il va construire un peu ce que seront les Pistons ensuite, puisqu'on les appelle les bad boys, et on va vous l'expliquer, parce qu'ils sont méchants sur le terrain, parce qu'ils sont physiques.
Durs sur l'homme,
adeptes des
coups
bas. Donc en effet, Laimbeer, il va permettre de construire un petit peu l'histoire des Pistons, tout autant que Thomas et son génie.
C'est surtout qu'ils vont super bien s'entendre. Ouais. Laimbeer et Thomas, ils sont tous les deux issus de Chicago. Ou de la banlieue chicagienne. Ouais,
même s'ils n'ont pas du tout pas de la même
ils
banlieue.
Sont pas
quoi.
Du tout,
ils sont pas du tout de la même extraction.
Ils sont pas du tout du même cocon. Oui. Et pourtant, ils vont être copains comme cochon. Et faut aussi préciser le poste de Laimbeer, qui est un pivot. Donc le pivot, c'est celui qui est sous la raquette, c'est celui qui récupère
celui
tous
qui
les ballons.
Pivote.
C'est celui qui pivote.
C'est le plus grand aussi.
C'est le plus grand.
C'est souvent le plus grand.
C'est souvent un grand costaud en fait qui est là pour.
Younes, tu pourrais jouer pivot par exemple.
Parfaitement. D'ailleurs, j'ai été la jambe de Billy Laimbeer.
J'ai été la jambe de Billy Laimbeer. Younes, 17 février.
La jambe des stars, comme on dit.
Et malgré son côté brutal, c'est un joueur assez talenteux, mine de rien, il marque des points. Il est assez précieux, Laimbeer.
Et en 1983, Chloé, il y a une grande arrivée, un petit supplément d'âme qui va entrer. Merci, c'est Olivier qui m'a soufflé le supplément d'âme.
Je l'avais mis sur mes notes, supplément d'âme, et je voulais qu'il apparaisse.
Quelqu'un le dise. Qui va arriver pour entraîner l'équipe.
Donc c'est Chuck Daly.
Tout à fait.
Est-ce que je l'ai bien prononcé, Sarah ? Ça y est, tu me valides ?
Enfin, on dit Dali selon moi, mais bon,
Dali.
C'est pas grave.
Non, c'est pas vrai. Bon, c'est bon, je suis virée. J'arrête tout. Donc, Chuck Daly qui devient l'année suivante l'entraîneur des Pistons.
Exactement, en 83.
Et pour certains joueurs, il deviendra comme une sorte de figure paternelle, donc notamment pour Thomas. Et il représente très bien le projet des Bad Boys, puisque c'est un chien prêt à tout pour gagner sur le terrain. Il est même capable de dire à certains joueurs qu'il peut les virer. Enfin, il a clairement besoin de personne.
Comme
tout est interchangeable.
Comme toi, finalement, ce soir, Chloé.
Oui, parce qu'en fait, je suis la 35e Chloé de cette saison.
Mais beaucoup mieux que la 34e, je trouve. Hein.
Oui, il y a du problème.
Quelle connasse.
Attention, la 32e était vraiment bien.
Je ne sais pas ce que vous en avez fait. Vous gâchez mes
elle
affaires.
Elle est avec Mickaël, elle est aux toilettes encore.
On a une très grande salle de bain. Ouais.
En tout cas, le recrutement de Thomas, de Laimbeer, l'arrivée de Daly va faire du bien aux Pistons, puisqu'en 84, ils vont arriver en play-off. Et on sent donc qu'il y a un peu les germes pour que l'équipe, ça devienne une grande équipe. Mais il y a quand même une défaite, je crois, dès le premier tour, c'est ça ?
En fait, oui, c'est ça. Ils vont affronter dès le premier... Alors déjà, ça fait très longtemps qu'ils ne sont pas allés en play-off, donc c'est déjà une très belle performance.
Ouais.
Thomas est de plus en plus à l'aise dans son équipe. C'est déjà... pas une star, mais enfin déjà.
Mais il prend quand même le rôle.
Non, mais je crois qu'il est. Je ne sais pas si en 84, il est All-Star Game en 85, en 84, je ne sais pas, vous nous le direz. Et donc, il joue contre les Knicks, c'était à l'époque où les Knicks gagnaient des matchs. Et contre Bernard King. Alors, Bernard King.
C'est pas les Knights.
Non, c'est les Knicks.
Et j'écoute Sarah quand elle dit.
Donc, New York. Il joue contre un Bernard King, une équipe plus forte qu'eux, notamment Bernard King, qui est un ailier ultra fort qui marque, je crois, une moyenne contre les Pistons de 40 points. points par match, c'est vous dire le bonhomme. Et il va se passer un truc incroyable, et ça, on vous mettra, parce que maintenant, on met des liens, je ne sais pas si vous avez vu, sur Florence Sartong, on vous a mis des liens et tout, sur les réseaux sociaux.
J'ai dit ça.
Florence Sartong on vous mettra le lien de la vidéo.
Depuis qu'on a été racheté par la Wehrmacht, c'est plus pareil. Hein.
Thomas qui, le 27 avril 84, est en feu et marque pour les 84, donc pendant les 94 dernières secondes du match 5 contre les Knicks. À l'époque, c'était en 5 matchs. 16 points. Enfin, là, vous avez l'impression que c'est rien, mais 16 points en 94 secondes. Moi, en 94 secondes.
Mais dis 94 secondes, t'as juste dit 16 points.
16 points en 94 secondes.
Bah, imaginez, je vais vous compter et voyez-vous marquer 16 points.
Vas-y, ça.
2, 3, 4. Bon, on a voilà. Okay.
94 secondes, moi j'arrive même pas à mettre le lacet de ma chaussure droite. Hein, donc,
on n'avait pas de chute pour cette vanne de Sarah et on a été pris dans le dans l'ouragan.
Donc c'est ça. Oui. J'ai une petite question, mais Bernard King, aucun lien avec Don King?
Non. Non. Non, par contre, c'est le frère de Michel Blanc. Mais d'accord, ça, personne ne le sait. Voilà.
En tout cas, donc, donc sur cette saison, on sent qu'il y a les fondements d'une équipe qui sont Michael posés. Et il y a une équipe qui progresse.
44
Thomas
victoires
progresse.
Cette saison-là.
Exactement, et c'est vraiment prometteur pour la suite, surtout que c'est une équipe très jeune, donc on se dit qu'il y a de quoi grandir ensemble. Et donc l'année suivante, la saison 84-85, les Pistons passent un tour de play-off, ouais, avant d'échouer cette fois-ci contre les Celtics du légendaire Larry Bird, 4-2, hein, ils perdent. Ouais, ouais. Mais il y a un autre événement important pour la suite cette année-là, en 85, c'est le All-Star Game.
Oui.
Voilà. Voilà. On peut continuer, voilà.
Et bah, parfait, très bien. Alors on continue.
Alors qui est sélectionné pour les All-Star Games?
Michel Blanc.
Michel Blanc.
Déjà. Isaiah Thomas.
Don King. Isaiah Thomas.
Sochaux.
Toulouse. Et un petit. Beaucoup de Michael.
Et un petit gars, bah justement Michael Jordan.
Michael Jordan.
C'est
Michael
pas le même.
Jordan.
Alors moi j'ai bien vérifié. J'ai regardé sa carte d'identité. Michael Moreto n'est pas Michael Jordan. Hein.
Non, ouais, c'est non, pas la même personne.
Non, j'ai bien fait gaffe.
Et de là va commencer un peu à naître la rivalité entre Michael Jordan et donc plus que pas des Bulls contre les j'ai beaucoup de mal contre Détroit puisque Michael Jordan va affirmer par la suite que Thomas avait demandé aux autres joueurs de boycotter Michael Jordan et donc de ne jamais lui passer la balle. Et forcément, ça n'a pas dû trop plaire Michael Jordan.
On peut faire une petite
parenthèse. Mais on n'est pas sûr de ça.
Expliquer un peu ça. En fait, c'est forcément c'est une rumeur. Ce n'est pas vérifié. Mais en revanche, il s'avère qu'effectivement, il y a une animosité entre les deux personnages. Que Isaiah Thomas est issu, lui, de Chicago. Et que Jordan commence.
Il serait jaloux, finalement.
Commence à prendre un petit peu une place dans le cœur des gens de Chicago, les Chicagiens. Comme tu le dis si bien, Olivier.
Tous les Chicagiens.
Et effectivement...
Il est 3h du matin, il faut le dire aux gens quand même aussi.
Thomas a un peu savonné la planche à Jordan et ça commence à faire naître une animosité entre les deux personnages.
Oui, Jordan, c'est sa saison rookie. Il est sélectionné au All-Star pour sa première saison. C'est incroyable. Thomas aurait dit... aux autres qui sont quand même trois fois plus expérimentés que lui, ouais, s'il vous plaît, faites pas la passe à Jordan. Et Jordan n'arrête pas de
boycotter ce mec.
Et à ce moment-là, il y a une vraie rivalité de la part de Jordan.
Alors, c'est pensé par Jordan, c'est répété par Jordan, mais c'est quand même une rumeur et il n'y a aucune preuve qui dit que Thomas a organisé entre guillemets une forme de boycott sur le All-Star Game de 84.
En tout cas, c'est voilà,
85, pardon.
Un petit début d'animosité. J'ai cru que j'allais pas arriver à dire ce mot-là. Et on va continuer, nous, à avancer dans la construction donc de ces futurs bad boys. Avec la saison 85-86 et le trade de Rick Mahorn, un joueur charismatique et tout en puissance.
Un joueur quoi
Charismatique et tout en puissance.
Ah, et surtout.
Mais surtout.
Il a un goût du vice.
Une grosse brute.
Sans limite.
J'ai eu très peur de ce que tout le monde allait dire.
Et ben non.
Mais tout va bien. Mais surtout le choix de Joe Dumars lors de la draft.
Eh oui, tout à fait. Qu'est-ce que je peux dire? Huitième choix pour Joe Dumars, qui est un super scoreur, hein, arrière super scoreur, qui est quand même le 11e scoreur de la Ligue universitaire à ce moment-là.
Et je crois que Thibaut, c'est toi qui disais que Joe Dumars, il ne mérite pas trop son nom de Bad Boys.
Il faut toujours une exception à toutes les histoires, les légendes qu'on raconte. Et Joe Dumars, ce n'est pas le grand méchant de l'équipe des méchants. C'est le gentil de l'équipe des méchants. Ouais. Il en faut un. C'est vraiment l'anti-bad boy. Il est connu pour être très fair-play, toujours sympa, certes dur dans le jeu, parce que ça reste. C'est l'identité de cette équipe.
Et, ouais, c'est les consignes quand même de Dali. Hein.
C'est les consignes de Dali qui peignait très bien par ailleurs. donc ça, on reste là-dedans. Mais Joe Dumars, c'est un joueur clean. C'est un joueur qui est vu comme un joueur sympa par tout le monde. Et il s'avéra être un des meilleurs arrière-shooters de sa génération. Il jouera quasiment 15 saisons, ce qui est énorme, hein, puisque la NBA, c'est quand même épuisant. 80 matchs par saison, fois 15, c'est beaucoup ça.
Beaucoup, trop,
ça fait
beaucoup
1250.
Trop.
150. beaucoup, beaucoup. Donc Dumars, on voit vraiment petit à petit, on vous le raconte, il y a une carrière, il y a une histoire très linéaire des Pistons. Chaque année, ils vont un peu plus loin dans les playoffs, ils recrutent un joueur, un deuxième joueur, il leur manque un point, ils vont recruter ce qui leur manque. Donc on a vraiment cette espèce de schéma parfait qui se met en place, en fait.
Mais c'est ce qui me fascine dans cette histoire, c'est qu'en fait, à chaque année, ils s'améliorent en comblant, entre guillemets, une lacune sur l'expérience.
Bah, c'est un puzzle, en fait, les trois pistons.
Il commence par le joueur qui va devenir la superstar, Thomas, le meneur. Ensuite, il rajoute du muscle, que ce soit par Lambir, que ce soit par Mahorn. Il rajoute du scoreur pour soulager aussi Thomas, que ce soit par Vinnie Johnson.
Du vice aussi.
Ou John Demars. Petit à petit, le John McCloskey fait un travail remarquable et surtout, les failles sont comblées. Mine de rien.
Et surtout, il n'a pas peur de changer, faire des changements. Je crois qu'en 10 ans, c'est 90 mouvements de joueurs. Donc c'est énorme. Il reconnaît quand il fait des erreurs. Ce qui est intéressant, c'est que tu vois, ça veut dire que c'est quelqu'un qui reconnaît ses erreurs et qui se dit on peut quand même améliorer les choses. Et ça va se voir dans les résultats des Pistons. Même si pour l'année 86-87, je crois qu'on passe à nouveau
C'est 85. 85-86, ils se font sortir par les Hawks. 3-1, voilà. Et là, on se dit qu'il faut encore plus de... Il manque un chaînon. Il y a quelque chose qui manque.
Une forme de lion.
Et peut-être qu'on va le trouver pour la draft 86.
Peut-être l'un des plus célèbres, entre guillemets, des Pistons. Qu'il a survécu, entre guillemets, à la légende des Pistons en passant justement au Chicago Bulls, à côté de Jordan. On parle de Dennis Rodman. Donc, on le connaît aussi parce qu'il a une forme d'intimité avec le leader nord-coréen.
avec Madonna aussi.
Mais c'est quelqu'un de très fantasque, mais qui vient d'un milieu extrêmement dur.
Oui, il dit qu'il a, alors ça m'a fait halluciner, il dit qu'il a 47 frères ou sœurs.
Ouais.
Il est père d'un
il est, il
père,
fils.
Il est fils d'un père qui est
volage,
qui va à droite à gauche. C'est quelqu'un qui est assez fragile psychologiquement, Dennis Rodman, peut-être que vous le connaissez pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Il a joué dans certains films au cinéma, il a ensuite fait une
avec Jean-Claude Van Damme.
Il a notamment joué dans Double Team
avec
Jean-Claude Van Damme.
Un excellent film de Tsui Hark.
Et c'est aussi un joueur qui est un excellent rebondeur, c'est-à-dire qu'il va prendre
la balle au rebond.
Voilà, tout à fait.
Que c'est au basket, c'est le sport là où ça rebondit,
Voilà, la balle, elle rebondit sur le parquet.
C'est exactement ça.
Vrai qu'en faisant des recherches sur Dennis Rodman, c'est celui où j'avais le moins de statistiques au niveau des tirs qu'il pouvait mettre, parce que lui, il était plutôt en défense, il récupérait les ballons, et il s'était dit,
travail de l'ombre.
Personne ne va jamais récupérer les ballons, ne va en défense. Bah, moi, j'aime bien ça, j'ai pas très envie de me prendre la tête à tirer. Bah, du coup,
c'est comme ça qu'il construit aussi sa spécificité et son point fort.
Et ce qui est aussi intéressant, c'est de savoir que Rodman, ce n'était que le 27e choix de draft. Ça veut dire qu'il y avait 26 joueurs jugés meilleurs que lui avant qui étaient sélectionnés. Donc il fallait vraiment un general manager, il fallait vraiment une team comme les Pistons qui soit assez visionnaire, qui soit bonne pour dire le 27e, c'est lui et ça va devenir le meilleur défenseur de l'année.
Ce gars fait du sale boulot
quelques années plus tard.
Voilà, il nous faut un gars qui fait du sale boulot.
Pour moi, c'est le vrai coup de génie, encore plus que Thomas peut-être, c'est Rodman.
Et donc l'équipe commence à vraiment avoir de la gueule. On décide aussi d'échanger deux joueurs pour Adrian Dantley, qui a 30 ans, qui a joué 6 fois dans le All-Stars Game, donc c'est pas n'importe qui. Et on sent que Détroit est de plus en plus solide. Et on aborde donc cette saison 86-87 avec de plus en plus d'espoir. Et sans entrer dans les détails, c'est 52 victoires pour Détroit, donc ça commence à être vraiment très bien. En play-off, ils vont éliminer Washington et Atlanta, et donc atteindre la finale de la conférence. Et alors, sans rentrer trop dans les détails, est-ce que vous pouvez me dire quelques mots de la finale face aux Celtics de Larry Bird et Robert Parrish?
Parrish.
Ça chauffe.
parce qu'il est pauvre. Ouais. C'est ça.
Oui, j'avais
Paris, c'est ce que tu voulais dire.
Ouais, ou j'essayais de placer un truc avec Paris Hilton, mais pas,
moi j'étais sur Alan Paris. Ouais.
Mais du coup, très vite.
Paris chez Magic aussi, ça. Voilà.
Très, très drôle. Ouais. Du coup, très vite, les Celtics vont mener deux manches à rien.
Oui.
Très, très vite.
Et donc, juste pour alors, que les gens comprennent bien, deux manches, c'est deux matchs.
Oui, oui, deux matchs.
Tout à fait. C'est pas les manches du pull de Sarah.
Non. Oh la vache. Il faut savoir que les Celtics.
C'est pas comme un set au tennis, c'est ce que je voulais dire, Thibaut.
Oui. À l'époque, c'est l'équipe la plus. Avant les Lakers, c'est l'équipe la plus titrée. Hein. C'est Larry Bird, qui est une légende vivante. On ne se rend pas compte, mais c'est vraiment le Platini de l'époque. Très mythe, ouais, comme tu l'as dit, Chloé, les Celtics mènent 2-0. Là, il va se passer un truc, c'est que le match 3 va être ultra agressif.
Ouais, ils vont se durcir.
Peut-être
ouais.
que c'est aussi là-dessus, que sur ce genre de match, que les bad boys vont voir que ça marche et vont voir que finalement, la défense rugueuse, l'agressivité à tous les niveaux du parquet peut marcher. Et au match 3... Bah finalement, les Pistons vont gagner, en
ouais.
fait.
Et le match incroyable. Et surtout pas n'importe comment, en fait. Il va y avoir un record de points encaissé
alors,
par les Celtics.
Pas le match 3, ça c'est le match 4.
Le 4.
Le match 3, c'est 122-104. Okay. Et au match 4, toujours au Pontiac, puisque les deux matchs se passent. Et
exactement.
Voilà, c'est 145-19 et c'est le record, effectivement, comme tu dis, Younes, ouais. de points encaissés par les Celtics en play-off, c'est assez incroyable.
Et là, ça sent le souffre pour les Celtics, là, parce qu'en ouais. fait, ils se font remonter en fait, un petit
on
peu.
Contre une équipe qui sort de nulle part, ouais. malgré tout. On la voit pas encore venir, cette équipe de Détroit.
En tout cas, ils peuvent pas battre des légendes comme
non,
les
c'est
Celtics.
C'est pas possible.
C'est ça.
Et au match 5, on se dit que ben, tout s'est peut-être retourné parce que les Pistons ont peut-être pris l'ascendant psychologique finalement sur leurs adversaires. Mais et Détroit se dirige vers une victoire.
À quelques
ils
secondes.
Mènent à quelques secondes de la fin et c'est eux qui doivent remettre en jeu.
Et là, c'est surtout Thomas.
C'est Isaiah ouais. Thomas qui remet en jeu, donc qui lance la baballe. Et
la baballe.
Et bah, là... c'est ce qu'il a dit, oh, bah... c'est ce qu'il dit dans oui, son, dans, qu'il... son ouais. dans son interview.
J'ai voulu lancer la baballe
et j'ai raté.
Récupéré non, là, par
y a...
Burn.
Après, il y a Sochaux aussi. Hein.
Il y a toute la ruse et j'ai envie de dire le génie de Larry Burn.
Exactement.
Qui s'incruste entre guillemets dans une partie du match où finalement n'importe quelle équipe et n'importe quel joueur aurait baissé les bras et laissé filer la victoire.
Tel un oiseau finalement.
Tel un oiseau.
Ouais, je sais que ça.
Mais
l'oiseau.
Larry Burn, c'est bien plus qu'un oiseau.
Bon, et finalement, donc.
Il récupère ce ballon.
Ouais.
Et finalement, il change le cours du match.
Et voilà.
Et oui, 108-107, c'est cruel, paf, c'est cruel perdu, défaite. C'est 4-3 pour les Celtics. Il y aura une déclaration qui va bien montrer à quel point cette équipe commence à se former et commence dans ses déclarations aussi, parce que ce n'est pas que le jeu physique, c'est aussi les déclarations.
Ouais, c'est
Rodman qui va déclarer un petit peu en off,
ouais.
que Larry Bird, si Larry Bird était noir, parce que ce serait un joueur comme un autre. Voilà.
Sachant que le début de la citation, c'est que Larry Bird est un joueur exceptionnel, mais s'il était oui. noir, ce serait un joueur comme un autre.
Oui.
Et en tout cas, ça va faire très polémique. Il va être soutenu par Isaiah Thomas, donc ça va aussi souder ouais. l'équipe d'avoir son coéquipier qui le soutient. Ils ne vont pas se démonter. Mais plus que jamais, la saison 87-88, on débute avec une équipe très proche des Bad Boys ouais. dans le jeu,
sur cette polémique,
comme dans l'attitude.
Sur cette polémique, en fait, ils vont surtout se forger une identité de seul contre tous, en fait.
Mmh.
Et,
oui.
et ce rapport, entre guillemets, de nous contre le reste du monde, c'est ce qui va créer les Bad Boys, en fait.
Et c'est un peu ça, c'est qu'ils vont adorer aussi se faire détester par toute une partie du public,
oui.
et en même temps adorer par une autre. Et il y a aussi un peu un truc social, c'est-à-dire, nous, on représente un peu...
Les mecs en marge.
Voilà, exactement.
Les mecs pas aimés,
la rue, les mecs en marge,
la société qui est mise de côté à côté de l'American Way of Life.
Exactement.
Et en fait, nous, on décide à un moment donné d'être méchants. Et la réalité, c'est que le monde est méchant et que nous, on décide d'être méchants. Donc finalement, ils vont se retrouver avec plein de fans.
Et plein de fans aussi. Il y a non seulement ce côté méchant, seul contre tous, mais il y a cette solidarité incroyable
ouais.
Entre tous ces joueurs qui sont issus de quartiers différents, comme on a vu avec Lembir et Thomas.
Complètement.
Et c'est ça aussi qui va les rendre malgré tout très humains.
Et attachants.
Et
ouais.
très attachants, parce qu'eux ne lâcheront jamais l'un des leurs.
Ouais. Et c'est, on va dire, un peu l'exposé quelque part de leur mentalité entre cette histoire et cette polémique provoquée par Rodman, de façon un peu idiote au départ. Et puis finalement, en fait, vu la solidarité de toute l'équipe, il se crée en fait aussi une mentalité pour les futures victoires à venir.
Exactement. Et la saison 87-88 va marquer un vrai tournant, hein, puisque sur cette saison-là, les Pistons vont devenir une véritable machine à gagner. Ils prendront leur revanche sur les Celtics en finale de la conférence.
De manière assez violente.
De manière assez violente. Mais surtout, il y a un match extrêmement important pendant cette saison sur laquelle je voulais qu'on revienne. Et ce sera le 16 janvier 1988 au Chicago Stadium, où on va avoir toute l'essence des bad boys sur le terrain.
Ça finit en fête au village. Tout le monde se met sur la gueule à la fin de ce match.
Mais bon, il y a Patrick Sébastien à la fin, donc tout va bien.
Donc ça fait tourner les serviettes pour détendre un peu, ça va, c'est cool. Et à l'issue donc, de cette échauffourée, il n'y a qu'un seul joueur qui va être sanctionné, et ce sera Rick Mahorn, si et je ne dis pas de bêtises.
Donc un pistolet,
c'est bien ça. Tout à fait.
En fait, c'est Rick Mahorn qui met un taquet comme il se doit, mais comme il se doit vraiment à Michael Jordan, évidemment. Donc ça prend des proportion énorme. Comme tu le dis, Chloé, il est suspendu un match seulement qui ? Seulement Rick Mahorn, donc le joueur des Pistons. Ouais. Et il est suspendu par...
Par qui ?
Par le vice-président. On n'a pas parlé d'ailleurs de David Stern, mais bon, bref, ce serait trop long.
Notre épisode.
Ouais. Qui est Rod Thorn, qui est un ancien de... Quelle ville ?
Chicago.
Mais qui est maintenant dans le board de la NBA.
Oui, qui est maintenant dans
et
le board.
Et de Total.
Voilà, qui est de très bon.
Pourquoi pas ?
Et d'LVMH aussi.
Et donc là, c'est vraiment toutes les déclarations des Pistons qui déclarent tous les uns les autres, qui restent solidaires, comme on va
toujours,
le voir.
Toujours en bloc.
Qui disent qu'en gros, c'est une injustice. Et il y a cette déclaration très, 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 très importante de Thomas qui va faire naître à sa manière les bad boys, qui dit « S'ils veulent qu'on soit une équipe en mode commando, comme les Raiders, nous pouvons alors devenir une équipe très agressive et montrer aux gens que c'est comme ça que nous jouons. »
Alors, Thibaut, tu peux nous dire qui c'est Raiders ?
Les Raiders, c'est une équipe NFL d'Oakland qui a forgé tous ses succès.
Football américain NFL.
Tout à fait. Qui a forgé la plus grande partie de ses succès sur une agressivité hors norme. Ce qui est assez amusant, c'est que les Raiders vont profiter de cette déclaration pour eux-mêmes se faire de la publicité.
C'est génial.
C'est incroyable. Et donner des maillots, des drapeaux à leur effigie aux Pistons.
Des pins FR3.
Donc là, vraiment, les Détroit Pistons sont officiellement devenus des bad boys, des vrais bad boys.
Cette année-là, ils ont été un peu adoubés. C'est à ce moment-là qu'ils ont le logo, même. Ils n'avaient pas de logo avant. Ils n'étaient pas trop surnommés les bad boys.
Ils avaient le...
Oui.
Il commence à y avoir des têtes de mort, effectivement, qui apparaissent, mais un peu en inspiration.
C'est au début de la saison suivante, 88, où la NBA va faire des petites vidéos de présentation de chaque équipe.
Ouais.
Et celle des Pistons de Détroit va s'intituler les Bad Boys, et c'est là que le nom va complètement s'ancrer, même si ils sont déjà nés, et notamment grâce à ce match contre Jordan et les Bulls, qui d'ailleurs se font battre 4-1 en play-off. Et donc ça va permettre aux Pistons, donc comme je l'ai dit, de prendre leur revanche contre les Celtics en finale de la conférence, et ils sont enfin en finale de la NBA contre les Lakers. Un mot très rapide sur cette finale.
Ouais, les Lakers, équipe de Los Angeles.
C'est à Los Angeles.
C'est l'autre équipe emblématique, comme dirait Younes, de la NBA.
Et il a raison.
On a deux joueurs incroyables à cette époque-là. Très rapidement, on a Magic Johnson, dont on a déjà parlé, qui est un meneur juste incroyable à avoir joué, et le vétéran Karim Abdul-Jabbar, qui a, je crois qu'il doit avoir 41 ans à l'époque, parce qu'il a 42 ans ensuite. Ils sont déjà les champions en titre, les Lakers. Et le match va être incroyable parce qu'on pense que les Lakers vont ne faire qu'une bouchée des Pistons, et ça va pas du tout être le cas.
Non.
Moi, ce que je trouvais incroyable, c'est sur le match 6, Thomas qui va se blesser à la cheville, non, et qui va continuer à jouer et marquer 25 points, alors qu'il a globalement la cheville pétée, ce qui n'est pas très, très bon pour lui. Hein,
on le voit, claudiquer, il n'arrive pas du tout à rester deux pieds sur le sol.
C'est vraiment un coup du sort, puisque les Pistons mènent 3 matchs à 2, donc il n'en reste plus qu'une victoire à gagner pour obtenir le titre NBA. Et peut-être que sans cette blessure, ils auraient gagné le titre NBA dès cette année-là.
Cette année-là,
merci. Merci
et une
beaucoup,
dernière
Ludo.
Chose que on va pas vraiment une ligne, c'est de dire que il y a une amitié qui était très belle en NBA, qui est une amitié entre Magic Johnson justement et Isaiah Thomas.
C'était une parenthèse.
C'était,
effectivement,
c'est une petite parenthèse. C'est une très belle amitié entre deux meneurs qui auraient être rivaux. À l'époque, il faut savoir que la NBA, c'était pas comme maintenant. Les rivalités étaient exacerbées au plus haut point, notamment par les médias. Et cette rivalité, cette amitié, elle était très belle. Il y avait même une salle chez...
Ah oui, j'ai plus Johnson, lequel, ouais.
Dédiée à Thomas quand il faisait ses déplacements.
Il avait sa chambre d'amis, effectivement.
Il avait sa chambre d'amis, sa console, les fléchettes, tout ça. La pétanque, il regardait les Tigers d'Orléans.
D'Orléans,
ouais. Et c'est cette confrontation-là, cette finale-là, qui a vraiment mis un... un frein
à l'amitié
qui s'est transformé en véritable haine, à tel point qu'en 92, lors de la Dream Team 92, bon ça en gros les États-Unis ont la meilleure équipe du monde, Isaiah Thomas sera pas dans la Dream Team, notamment à cause de Magic Johnson, son ancien ami.
En partie, oui.
Selon les rumeurs. En tout cas, les Pistons s'inclinent 4-3 en finale de NBA face aux Lakers. Ils n'ont pas réussi encore à franchir la dernière marche. On a l'équipe, on a la réputation, on a les défaites qui font mal mais qui font apprendre.
C'est beau ce que t'es dit.
C'est beau, hein, n'est-ce pas ? C'est moi qui l'ai écrit. Et je vous propose de nous mettre en jambe pour la saison prochaine qui s'avère être d'un très haut niveau avec un peu de musique.
Can't touch this. My music hits me so hard, makes me say, oh my Lord, thank you for blessing me. What am I to rhyme and do like me? It feels good when you know you're down. A super dope homeboy from the Oak Town, and I'm known as such, and this is me. You can't touch it. I told you, homeboy, you can't touch this. Yeah, that's how we living, and you know you can't touch this. Look in my eyes, man, you can't touch this. Yo, let me bust the funky lyrics.
Can't touch this.
Fresh new kicks and bands, you got it like that. Now you know you wanna dance, so move out of your seat and get a fire girl and catch this beat while it's rolling. Hold on, pump a little bit and let the noise go on like that, like that. Pull a little bit, just don't fall on back. Let them know that you're too much, and this is a beat they can't touch. Touch this. Why you standing there, man? You can't touch this. Yo, sound the bell. School is in, sucker. You can't touch this. Give me a song, a rhythm, making them sweat. That's what I'm giving them now. They know. You talk about the hammer, you're talking about a show that's hot and tight. Singles are sweating so fast, I'm a whiteboard tape. To learn what it's gonna take in the 90s to burn the charts. Legit. Either work hard or you might as well quit. That's word, because you know. You can't touch this. You can't touch this. Break it down. Stop. Hammer time. Go with the flow. It is said, if you can't prove the list, then you probably are dead. So wave your hands in the air. Bust a few moves. Run your fingers through your hair. This is it. For a winner, dance to this, and you're gonna get better. The move, slide your rump, just for a minute, let's all do the bump. Yeah, can't touch this. Look, man, can't touch this. You better get a hype, boy, cause you know you can't touch this. Ring the bell, school's back in, break it down. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. Break it down. Every time you see me, that hammer's just so hype. I'm dope on the floor and I'm magic on the mic. Now why would I ever stop doing this? With others making records that just don't hit. I pull around the world, from London to the Bay. It's hammer, go hammer, it's the hammer, yo hammer. And the rest can't go in play. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. Yeah. You can't touch this. I told you.
des Pistons le jour de leur victoire. MC Hammer, Can't Touch This, donc le tube intergalactique, j'ai envie de dire.
Trop bien.
Qui rafle toutes les récompenses musicales et qui est adopté par l'équipe des Pistons pendant leur victoire. Et surtout en citant les autres villes et en montrant la bague des vainqueurs pour bien foutre la rage à tout le monde. Pour un peu insister sur le côté mauvais garçon.
Alors, j'ai l'impression que Younes nous raconte la fin de l'histoire déjà.
Non.
Parce que pour
Younes,
l'instant, nous ne sommes...
Spoiler alerte.
Quand début de saison 88.
Oui.
Et les Pistons démarrent plutôt dans les favoris. Là. Cette fois-ci, ça y est, ils sont installés, c'est plus une surprise.
On les attend.
Ah, on oui. les attend un là. Peu.
Attends, il y avait quand Toulouse, il y avait Sochaux, mais maintenant, il y a les Pistons.
Les
quoi.
Pistons.
Tu ne fais pas une finale de NBA comme ça sans la saison d'après faire partie des favoris.
Ils ont semé les graines tel le petit poussé. Maintenant,
oui,
ils sont prêts à gagner.
Ils ont, fait déjouer les Celtics, ils ont fait peur aux Lakers. Donc là, on les attend.
Et alors, avant de commencer la saison, il faut parler d'un gros changement qui est un déménagement, Thibaut, c'est ça ?
Oui, on vous avait parlé du Silverdome de Pontiac, qui était le stade, non pas un vieux stade de province à Sochaux, mais bien un gros stade américain
de province
dans lequel jouaient les Détroit Pistons. Eh bien, c'est terminé, puisque le propriétaire des Pistons décide de faire déménager l'équipe dans un vrai stade qui n'appartiendra véritablement qu'aux Pistons, le Palace d'Auburn Hills.
Ouais.
Et là, on est vraiment dans le stade de la démesure, un stade qui coûte très cher, 70 millions de dollars, qui est en configuration basket 22 000 places, donc ils vont pouvoir avoir un vrai public dédié à eux, et ça va participer aussi à faire de cette équipe une équipe qui joue devant un public qui est uniquement pour eux, tout simplement.
Exactement. Et donc, dans cette nouvelle salle, Détroit va tout simplement faire des merveilles, puisque l'équipe est très bien rodée. Elle a trouvé son équilibre et elle va dominer la saison régulière de manière absolument spectaculaire. À la mi-saison, il faut quand même noter un petit changement qui va achever finalement la transformation de cette équipe, puisqu'il y a un dernier joueur qui arrive. Qui veut m'en dire un petit mot ?
Eh bien, c'est moi. C'est Adrian Detlef qui est envoyé à Dallas et ouais, chez les Mavericks. Et à la place, les Pistons récupèrent. Et c'est rigolo la petite histoire.
Oui.
Parce qu'ils récupèrent Mark Aguirre. Et Mark Aguirre, c'était le premier choix de la draft en 81, avant Isaiah
Thomas. C'est ça.
Et donc, il les récupère maintenant. Il a 8 ans de plus. J'ai fait un calcul rapide d'addition. Et c'est un changement important parce que Detlef n'était pas content. Non, il n'était pas content de son rôle. Il chauffait un peu le banc. Il faisait pas partie du 5 majeur. Et nous, les pas contents, eh ben, à Détroit, eh ben, qu'ils aillent se faire voir.
Non, mais
voilà.
Encore une fois, c'est un choix assez intelligent de McCloskey et de. Ça y est, j'arrive plus à le dire. Et de Daly. Puisque, en fait, Dantley est quand même un bon joueur. Donc, le public et la presse à l'époque, ils sont plutôt un peu critiques de ce départ en milieu de saison en plus, alors que tout se passe bien. Et pourtant, justement, c'est un choix qui vise à ressouder le groupe, parce que comme tu dis, en fait, Dantley, il aime pas trop être dans l'ombre d'Isaiah Thomas, et donc on pense à l'équipe avant tout.
Et surtout, on a un coach voilà, qui a compris qu'il était face à un puzzle, et pour lui, c'est la dernière pièce du puzzle. Et donc,
j'adore les puzzles. On est d'accord qu'il faut d'abord trouver les coins pour avancer.
Oui,
et
bah,
mais alors, justement, est-ce qu'Aguirre, c'est pas un coin finalement? C'est une vraie question.
Et c'est pour ça que le puzzle n'était pas fini la saison précédente. Et donc. Malgré donc ce changement qui a pu un peu choquer, défrayer la chronique, et ben en fait Détroit, qui est déjà très bien positionné dans cette saison régulière, va écraser la fin de saison. 31 victoires sur les 37 derniers matchs et termine avec un bilan de 63 victoires pour 19 défaites.
C'est énorme.
C'est le meilleur. Ouais.
C'est le meilleur.
C'est les meilleurs de la saison régulière. Reste à
gagner les play-offs.
Mais on est sur une équipe qui n'est pas composée de stars.
Non.
Qui se connaît maintenant depuis 5-6 ans.
Olivier.
La tactique de McCloskey de les intégrer petit à petit a très bien marché. Le puzzle, ça y est, on a trouvé la dernière pièce. Vous savez, celle qui est c'est la mer, tout est bleu et on ne sait pas trop. Voilà, on galère entre deux pièces. Et tout va très bien pour ces Pistons qui arrivent en play-off. Alors là, c'est une petite formalité.
Oui, en tout cas, les deux premiers tours face aux Celtics et aux Bucks de Milwaukee, ouais. Ça va extrêmement bien se passer. Et en finale, qui on retrouve, et c'est ça aussi qui participe à la légende de la confrontation les Bulls contre les Pistons, c'est qu'on retrouve les Chicago Bulls.
De Michael Jordan,
et ça promet d'être une finale assez excitante. Non, personne ne trouve ça excitant.
Si, c'est très excitant.
Si, moi,
déjà parce que on aime les redites, on aime voir les mêmes chocs
chaque
année.
On aime les redites.
Ce n'est pas une contrepétrie.
Non, mais il y a un goût de revanche, et puis effectivement, on a laissé sur le, une sorte de combat à commencer, un peu inachevé, avec une sanction à l'époque qui avait, entre guillemets, bousculé un petit peu les Pistons, et puis ils étaient à même de vouloir, en fait, entre guillemets, en découdre.
En tout cas, les Bulls, même s'ils ont fait un peu moins bien que les Pistons sur la saison régulière, ils sont quand même
Ils sont très chauds, surtout Jordan qui se dit qu'il peut peut-être calmer les Pistons à lui tout seul.
Ouais.
Du coup, il marque 32 points qui permettent aux Bulls d'arracher
la première victoire
à 94-88 chez les Pistons.
Exactement, pour le premier match. Et là, on se dit, peut-être que ça sent pas si bon que ça pour les Pistons. Mais en fait, ce match est un peu un trompe-l'œil parce que les Pistons vont réagir très fort dès le deuxième match en battant des 300 à 91. Et en fait, ils vont mettre une petite stratégie en place. Écoutez bien, vous allez peut-être trouver ce que c'est.
They also need to be concerned about pick and rolls. They'll trap everyone. And while Michael's doing his thing, just kind of creating, they'll run the next guy at him to double team him, no matter who it is. But keep this in mind, Mark. They don't always use the Jordan rules.
Oh, they didn't preach it. They didn't brag about it. But it was on display.
Jordan to the foul line, room in the lane. Isaiah grabs him and fouls him.
The Jordan rules were for the Pistons know about, not for anybody else to know about.
The Jordan rules, is that something you guys made up?
Jordan rules were, to stop him, period, because nobody else could beat you on that ball court.
Alors, c'est quoi ce truc-là, là, les Jordan rules?
C'est toute une méthodologie.
Une méthodologie?
Oui, tout à fait.
C'est vrai que c'est précis.
C'est précis. En fait, c'était un secret, visiblement, de Polichinelle, mais en réalité, c'est tout
secret.
C'est toute une méthode pour faire péter un plomb à Michael Jordan.
Ouais, c'est une stratégie défensive qui vise à lui coller au cul, j'ai envie de dire, parce que c'est en mettant au moins deux joueurs qui défendent la zone dès que Jordan s'approche des paniers. C'est lui faire des gestes qu'on pourrait considérer comme des fautes aujourd'hui, mais un petit peu moins à l'époque, je suppose, parce qu'on pouvait le pousser un petit peu, le toucher, on pouvait agripper la balle.
Et on essaye de faire ce qu'on fait en sport, parfois dans des sports collectifs, dégoupiller un adversaire qui a un ascendant comme ça dans un sport d'équipe.
Alors dégoupiller,
dégoupiller,
dans le langage de Younes des années 2000, c'est lui faire péter les plombs. Parce que Younes est né au 18e siècle.
Voilà.
Mais ça, c'est un secret de Polichinelle pour personne. À savoir que les Bulls, ils ont le meilleur joueur du monde qui ne l'est pas. Pas encore tout à fait, mais déjà, on s'en doute.
Complètement
le meilleur joueur de l'histoire, peut-être, Michael Jordan. Sauf qu'ils ont Michael Jordan. Derrière, ils ont des joueurs talentueux. Ils ont Horace Grant, ils ont Scottie Pippen. Mais qui ne sont pas encore arrivés complètement à maturité. Jordan fait un peu tout le travail, notamment dans les grands matchs. Ils ont aussi un coach qui s'appelle Duke Collins à l'époque, qui n'est pas le grand coach que les Bulls vont avoir, qui est Phil Jackson, qui est l'assistant à ce moment-là, mais qui va arriver ensuite.
Ouais.
Donc, il y a quelque chose à faire. Et donc, c'est un secret de Polichinelle de savoir
pas
que...
qu'on répète ça.
Ça fait rire Olivier.
D'accord, ouais, voilà.
Non, mais là où c'est génial, la stratégie contre Jordan, je ne sais pas si c'est ce que tu allais dire.
Ah ben, dis-tu,
on finit. Il allait dire que
c'est génial. C'est génial. À la fois, évidemment. Donc, on lui met un garde dans ses pattes pour qu'il joue le plus mal possible, pour qu'il perde le ballon. On lui en met un deuxième. Mais surtout, on essaye aussi de le fatiguer quand Jordan doit défendre. Donc, on donne le ballon à celui sur qui Jordan doit défendre. Comme ça, il se fatigue quand il attaque et quand il défend.
C'est exactement ce que j'allais dire.
On n'a pas précisé ça un peu plus tôt, mais en fait, donc chaque joueur a un rôle clé. Parfois, il y en a qui ont deux rôles. Et Jordan, c'est un des rares joueurs qui pouvait cumuler les cinq rôles et en fait switcher d'un rôle à la fois selon les faiblesses de son équipe.
Quand les Bulls jouaient à l'époque, il n'y avait que Jordan sur le terrain et puis il se faisait des passes à lui-même. C'était très impressionnant.
Ah, il était coach et quand il allait vendre des bières dans les tribunes, ça c'était impressionnant parce qu'il arrivait à marquer des paniers.
Il faisait des types de fous.
Ce qui est intéressant, c'est que ces Jordan rules, elles sont physiques, mais elles sont aussi d'une certaine manière psychologiques, puisqu'on use Jordan et puis même, tu as l'impression qu'on en joue un peu. C'est à se demander si elles existent vraiment.
Dans une interview, effectivement, de Bill Laimbeer, qui explique que franchement la stratégie c'était surtout de rentrer dans la tête de Jordan et c'était, avec ses yeux d'assassin bouché, ça fait assez peur en fait. Non, quand
après,
il en parle
après il y a quand même, c'est quand même une défense à deux à chaque fois sur lui. On essaie de le mettre vraiment sur les extérieurs pour qu'il soit le moins efficace possible. Il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment un gros travail tactique aussi. Ce n'est pas que juste envoyer Dennis Rodman qui lui dit vas-y tais-toi et lui rentre dans la tête.
Non, il y a du réel, c'est évident, puisqu'il y avait un coach qui était génial, donc il y a une stratégie réelle. Mais comme le disait Younes, la partie psychologique pour faire dégoupiller l'adversaire, elle est très importante, comme en boxe finalement avant un combat.
Bien sûr, on veut le trash talk et tout ça. Mais en fait, au-delà de pouvoir le faire, enfin de vouloir le faire, il faut pouvoir le faire. Et les Pistons avaient les capacités de pouvoir répéter cet effort en fait. Qui n'est pas donné forcément à toutes les équipes de pouvoir faire dégoupiller Jordan comme ça.
Exactement. Et d'ailleurs, on va voir donc, à partir du match 3 que finalement, les Pistons sont bien plus complets, soudés
comme
et physiques que les Bulls. Surtout que les Bulls, bah, en fait, c'est comme disait Olivier, il y a surtout Jordan qui est à maturité, les autres pas tout à fait encore. Et en fait, Michael Jordan ne peut pas renverser l'équilibre des forces à lui tout seul. Et surtout, ce qui est intéressant dans l'histoire des Bad Boys, c'est qu'ils expliquent, genre, en fait, à partir du moment où l'équipe en face rentre sur le terrain en se disant c'est pas un jeu, c'est un combat, bah, en fait, on a gagné parce qu'au combat, c'est nous les plus forts.
Exactement. Ouais.
Et donc, c'est vraiment toute leur mentalité.
Sur leur parcours, effectivement, ils ont rencontré des équipes qui avaient décidé de se battre en fait, et donc ils en oubliaient le jeu, et c'est à ce moment en fait, avant même d'avoir commencé le match, que les Pistons gagnaient leur match.
Et finalement d'ailleurs, donc les Pistons vont finir donc par battre les Bulls 4-2 et se qualifier une nouvelle fois pour la grande finale NBA pour la deuxième saison de suite, et on va se retrouver à nouveau face aux Lakers. Et donc cette finale 89 va marquer donc la fin d'un grand cycle dans l'histoire de la NBA, celle donc qu'on a appelée la double monarchie Celtics-Lakers, qui ont empoché tous les titres depuis le début des années 80.
Oui, c'est soit l'un, soit l'autre, en gros, voilà.
Bah c'est, Lakers, ouais, c'est ça, soit l'un, soit l'autre.
Les Lakers, ils arrivent encore en finale, ils sont deux fois champions de suite, ils ont fait ce qu'on appelle le back-to-back, donc ils sont quand même... Après, ils sont moins bien. Cette année, ils sont moins bien. Karim Abdul-Jabbar a désormais ton âge, Younes, c'est-à-dire 173 ans au moment de rentrer sur les
la
parquets.
La moitié de mon âge, ouais.
Bonjour Younes.
Bonjour.
Et donc, on peut se dire que ça va être peut-être un peu plus serré.
Plus coton, ouais.
Et d'ailleurs, dès le début, cette finale, elle commence pas très bien pour les Lakers. Parce que je crois que c'est avant même que le premier match donc, de cette grande finale qu'ils doivent enregistrer la blessure d'un de leurs principaux joueurs, ouais. Brian Scott, qui ne pourra pas du tout jouer.
Byron.
Byron.
Ah non, c'est la fin du sans-faute.
C'est la fatigue. J'ai mal lu.
On fera une coupe. De toute façon, maintenant, on les dit en pleine émission. Il n'y a pas de souci. Tu notes la coupe, s'il te plaît, Younes.
Ça veut dire justement qu'il faut tout reprendre depuis le début. Ce qui est terrible.
C'est Byron Scott.
C'est Byron Scott. Et donc, le premier match, c'est la première victoire pour les Pistons. Ils l'emportent 109 à 97.
Allez, bim, prends ça, les Lakers.
Et ils n'ont vraiment pas de chance, les Lakers, parce qu'au match 2, ils ont un deuxième joueur majeur qui se blesse, qui
Exactement.
Est Magic Johnson, encore plus majeur que Byron Scott.
Encore plus magique.
Et d'ailleurs, les Pistons vont l'emporter, mais seulement 108 à 105. Donc, c'est pas une victoire facile quand même.
C'est pas une victoire facile, mais l'ascendant est là. Les joueurs stars des Lakers ne peuvent plus assurer le travail comme ils le faisaient. Karim Abdul-Jabbar, dont on vous a rapidement parlé, bah, il commence à être âgé, il a quand même 42 ans. Il ne peut pas tout faire tout seul. Donc Magic Johnson tente de revenir sur le match 3. C'est un échec et Détroit l'emporte 114-110, donc avec un grand Dumars. Donc vraiment là, les Pistons ont pris le dessus et ils vont réaliser un régicide terrible puisqu'ils vont gagner les 4 matchs à la suite et pour remporter la série 4-0.
C'était une triste façon pour les Lakers
de finir leur règne.
Leur règne et cette équipe légendaire aussi qui disparaissait.
Et oui, parce que donc c'est ce qu'on va appeler le coup de balai même, le sweep.
The sweep.
Sweep. Sweep.
Comment ça va ?
Ils balayent.
Le sweep.
Les Lakers 4-0. Mais bon, ça nous fait nous très plaisir d'entendre les Pistons gagner.
A.C. Green fires it, Edwards clears. Last year, the Pistons had a 3-2 lead, but couldn't win one of the last two, and now they'll do it. World champs.
Enfin, les Bad Boys sont champions du monde.
Ça y est, champions, mon frère. On est les champions. On est les champions. On est les Bad Boys. Oh,
c'est joli. Et ouais, t'as reconnu bien là le style des Bad Boys de Détroit, champion pour la première fois de leur histoire.
Magnifique.
Superbe saison.
Une équipe sans star, un seul joueur au All-Star Game, Thomas. Dans cette NBA qui est de plus en plus friande de stars,
Marcel Sauchot et Jean-René Toulouse remportent pour le premier titre NBA des Pistons.
Non mais c'est incroyable, je crois que ces années de Pistons, elles sont incroyables parce qu'effectivement, elles ne comportent pas de joueurs majeurs. Oui, si Thomas, vous allez me dire, mais à part ça, c'est vraiment une équipe putain de solidaire de ouf qui fait plaisir. Oui, bien sûr, c'est du jeu vicieux. Oui, bien sûr, parfois, ils crachent sur leurs adversaires. Oui, bien sûr, parfois, ils partent avant la fin.
Mais c'est tellement de caractère et
c'est tellement, mine de rien, d'humanité. Ouais. Bref, c'est magnifique.
Globalement, je suis assez d'accord avec toi, surtout que, bah, effectivement, où les individualités, en fait, ne se sont pas forcément démarquées. On a Thomas, mais finalement, il est leader d'un groupe, mais ce groupe est tout aussi charismatique. On a pu citer Lambeer, on a pu citer Dumars. Ils ont tous une qualité. Et en fait, finalement, ce qui est adoré avant d'être une personnalité, un peu comme sur les Lakers avec Kareem Abdul-Jabbar ou Magic Johnson, c'est quand même toute l'équipe entière, en fait, qui est adorée.
Alors, c'est beau. Moi, j'aime pas trop quand même les incivilités. Mm-hmm. Donc, j'aime bien les Bad Boys. Mais bon,
mais
ils ont
trop.
Trouvé grâce à mes yeux. Mais bon, pas trop quand même. Ouais, ouais. Moi, j'aime bien quand on respecte les lois. En tout cas, une victoire, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il faut faire le back-to-back pour la saison 89-90. Alors, cette saison, elle commence par l'entrée dans la NBA de deux nouvelles franchises.
Eh oui.
Et qui dit deux nouvelles franchises dit que les équipes vont devoir
se fournir en joueurs.
Et donc, la draft va être plus importante, etc. Et surtout, on va devoir donner des joueurs, si j'ai bien compris, échanger plus de joueurs.
Exactement, parce qu'on a deux nouvelles franchises qui arrivent sur le marché, finalement, qui sont Minnesota et Orlando. Et ces équipes, il faut leur donner des joueurs. Donc, la NBA décide que chaque équipe ne pourra protéger que 8 joueurs. Et les autres joueurs sont à la merci et peuvent signer les autres franchises.
Ça, c'est ça, je trouve ça assez dingue en vrai. Parce que t'imagines en Ligue 1.
C'est génial.
Bon, t'as Sochaux. Je vais vous prendre Neymar, là, le petit Neymar. Merci beaucoup.
Mais c'est tout le génie de la NBA. C'est à la fois, c'est une ligue fermée. Donc, on ne peut pas descendre dans une division en dessous. On a une sécurité économique pour ceux qui investissent dans ce sport. Mais en même temps, on se dit, il faut quand même que ce sport reste un sport où tout le monde peut gagner. Donc, on réintègre toujours une sorte d'aléa pour permettre
à
tout le monde de gagner.
Remplir entre guillemets les gymnases et pour que les gens puissent continuer de regarder le spectacle, il est intéressant d'imaginer que son équipe puisse
un
jour gagner. Et effectivement, si elle part avec zéro chance, on a très peu de moyens pour pouvoir attirer le public.
On peut pas faire ça avec le tennis pour les joueurs français, c'est pas vrai, Thibaut.
Non, Sarah,
les joueurs français, tu
alors
sais.
Alors je t'échange deux joueurs français
contre un joueur espagnol.
Par contre, je garde la mentalité.
Arrêtez ce podcast.
Du coup, les Pistons vont avoir une petite stratégie pour essayer d'éviter les grosses pertes. Tout d'abord, il faut savoir qu'on peut protéger 5 joueurs.
Ouais.
Du coup, ici, on a Isaiah Thomas, Drew Dumars, Bill Laimbeer, Dennis Rodman et Jan Sally. Donc, ils sont les joueurs prioritaires.
Ouais, protégés.
Ensuite, ils ont pu garder également James Edwards, qui est très fort à l'offensive, Mark Aguirre et Vinny Johnson. Mais le seul, du coup, qui reste potentiellement disponible est Rick Mahorn. Qui lui, il est un peu blessé, Eric, il n'est pas en grande forme, il a été touché au dos, il a eu pas mal de difficultés lors des playoffs, et du coup, ils espèrent un peu décourager Orlando et le Minnesota en leur donnant leur joueur le plus fragile,
Ce que dit Chloé, c'est hyper intéressant, c'est qu'en fait, 8 joueurs à protéger, ça vous paraît beaucoup, mais pour une équipe qui est assez homogène, c'est quand même une perte par rapport à des équipes avec 3-4 grosses stars, donc ils doivent faire des choix et c'est très compliqué en fait.
En fait, ils espèrent un peu que comme Mahorn est blessé, il va peut-être pas être choisi.
Exactement.
Si je comprends bien, et donc ils vont le garder, et c'est un pari perdu puisque Mahorn va être sélectionné par les Wolves.
Il va être sélectionné, donc c'est la fin des Bad Boys et c'est la fin de ce podcast puisqu'ils vont être éliminés au premier tour en 89.
Bonne journée. Non, mais c'est très intéressant ce que vous avez dit tous les deux, tout le monde dit des choses intéressantes.
Non, et moi, c'est surtout ce que tu as dit, Olivier.
Ouais, Younes, du coup,
surtout pas.
Dans cette équipe homogène où il y a un banc très fort, et c'est aussi ça qui fait la différence, notamment face aux Bulls lors de la confrontation 88-89, c'est que le banc des Pistons écrase littéralement celui des Bulls en termes de
talent en termes de joueurs rentrants. Donc les joueurs qui rentrent.
Calme-toi, Olivier, calme.
Non, mais je le dis comme je pense.
Reste
écoute,
bien
il faut
calme.
Bien qu'il y ait quelqu'un qui dise quelque chose de franc dans ce podcast.
Ah, je peux vous dire qu'Olivier, il a pas que des amis à Chicago. Hein.
Souple sur les appuis, Olivier, souple sur les appuis.
J'ai encore mal à la cheville de la dernière fois. Du coup, il n'y a plus Rick Mahorn, débrouillez-vous.
Oui, alors,
il n'est plus là.
On
il
se dit qu'avec Rick Mahorn, c'est peut-être le début de la fin des Bad Boys, hein, puisque lui, qui était un joueur qui savait prendre les coups, qui savait en donner, doit partir. Et pourtant, on va voir que les Bad Boys vont tenir le coup cette saison-là.
On a qu'à raconter la fin tout de suite, et puis on peut se casser
même
comme
si
ça.
Même si le début est un peu difficile.
Le début est difficile puisque Laimbeer est obligé de faire le sale boulot, la sale besogne tout seul. Donc il défend, il s'épuise à défendre. Et on a un début de saison un peu besogneux, c'est le cas de le dire. Après 12 matchs, les Pistons n'ont gagné que 7 victoires, ce qui est pas énorme pour un champion en titre. À la mi-décembre, on est sur 13 victoires pour 9 défaites. Bref, un bilan assez équilibré.
Difficile,
c'est vraiment
reprise.
Pas terrible.
C'est ouais. Pas terrible. Et pourtant, on va vite comprendre que Bad Boys are not dead yet. Oui, en fait, ils vont vraiment montrer qu'ils ont encore du caractère et qu'ils ont encore pas mal de ressources. Parce que donc, malgré le manque de grosses stars, malgré un Dumars un peu moins étincelant, malgré le départ de Mahorn, et même avec un jeu un peu plus lent, ils vont assumer finalement leur statut.
Ils vont assumer leur statut et ils vont le faire. On peut revenir à notre puzzle. J'ai envie qu'on revienne à notre puzzle.
Il ouais.
Y a Dennis Rodman, on vous en a parlé. Il était ouais. déjà très fort les années précédentes, notamment la première année du titre. Mais là, il va vraiment se révéler et prendre une place qui n'était pas encore la sienne la saison précédente. C'est un défenseur hors norme, un rebondeur extrêmement doué.
Ça veut dire qu'il rebondit sur lui-même.
Oui, sur la tête.
C'est un kangourou, en fait. C'est un kangourou. En fait, ils ont recruté ils étaient au zoo des Sables d'Olonne et ils ont recruté un kangourou pour leur équipe, c'est
c'est
puzzle.
C'est ce que j'avais quand j'étais petite, c'est une espèce de gros ballon avec une anse en plein milieu et tu sautais comme ça, comme si c'était
J'adorerais en avoir encore.
Un poney.
De kangourou, de Dennis Rodman, de anse.
Puisque je dois faire le sale boulot, je rappelle qu'on est sponsorisé par le zoo de Thoiry et pour deux places achetées, la troisième est offerte.
Et par le parc de la Sainte-Croix, j'aimerais beaucoup qu'ils m'offrent une soirée avec les loups. Donc si jamais ils nous entendent, ils peuvent nous sponsoriser.
Et donc celui qu'on appelle le
kangourou. Moi j'adore les diamants, alors si Cartier veut m'envoyer un diamant. Non, je sais pas, si j'avais l'impression qu'on.
Moi j'adore les banques, donc si vous voulez m'envoyer 500 000 euros, je suis aussi preneur.
Une doléance
Rodman.
Et moi je n'aime que Younes. Alors celui qu'on appelle le kangourou à EPO, mais qu'en fait on appelle normalement The Worm. Oui. Ça veut dire quoi The Worm, Sarah ?
Le ver de terre.
Ah, c'est beau, c'est bien.
On a joué à Worms Armageddon quand on était petit, arrête un peu.
Lastico.
Lastico va vraiment devenir un joueur majeur du 5 des Bad Boys de Détroit. Il sera élu meilleur défenseur de l'année. Il jouera le All-Star Game avec Dumars et Thomas. Bref, les Pistons sont encore plus défensifs que jamais. Et ils vont imposer leurs pattes cette année-là, comme ils l'ont fait la saison précédente, malgré la perte dont on avait parlé en début de saison. Ils vont dérouler leur plan de marche. En mars, ils dépassent les 50 victoires.
Exactement.
50 victoires, c'est énorme. Hein. Avec 50 victoires, vous êtes à coup sûr qualifié pour les playoffs. Ils font une fin de saison un peu moins forte, mais bon, ils terminent quand même avec un bilan excellent de 59 victoires pour 23 défaites. Le deuxième de la Ligue après les Lakers. Bref, ils sont encore un favori naturel au titre. Peut-être pas le favori comme la saison précédente, mais au moins le numéro 2.
Et donc, ils vont commencer les playoffs en maîtrisant leurs premiers adversaires. Hein. Indiana au premier tour.
Sweep.
Et les le coup de balai.
Sweeps.
Ensuite.
Les Knicks, non, c'est ça après.
Les Knicks ensuite,
ouais,
tout à fait.
Avec Patrice Irving, c'est un super.
Et surtout Kiki.
Et
ça,
Kiki,
mon préféré.
Kiki, ça me fait penser à un joueur de. Pardon, vous saurez d'avoir.
Oui.
Non, parce qu'on joue à mon petit gazon.
Et moi, j'ai
avec
vendu Kiki.
Younes.
Ouais.
Et Younes achète des joueurs parfois juste parce qu'ils ont un drôle de nom. Voilà.
Alors en revanche, mon petit gazon n'est pas encore un partenaire. Ils n'ont pas encore signé. Si tu pouvais l'appeler autrement.
Ma petite pelouse. Ma pelouse Rikiki.
En tout cas, je ne.
MPR.
Je ne donnerai pas le nom de Kiki parce qu'il est trop compliqué.
Vande de Vegeux qui est un ailier magnifique.
Non, et le match contre les Knicks, c'est important aussi parce que là aussi on est contre une équipe de stars, une équipe de grosses stars avec Ewing et Kiki. Et Kiki sont très forts et malgré tout ils vont être muselés, véritablement muselés par les Pistons puisqu'ils vont être bloqués à 77 points de moyenne sur la série, c'est-à-dire sur les 5 matchs qu'ils vont disputer.
Incroyable.
Contre les Pistons. C'est très peu, 77 points. Vous vous rappelez, on vous a parlé d'équipes qui marquaient 100, 110, 120, ouais. 130 jusqu'à 140 points, même plus. véritablement sur des matchs de très haut niveau en play-off, bloquer une équipe à 77 points, ça veut dire que vous
c'est
êtes dans leur tête pour les faire
ouais,
défendre.
C'est un travail monstrueux.
Ouais, ça, c'est-à-dire qu'ils ne gagnent jamais de beaucoup de points d'écart, parce que ce n'est pas l'attaque à tout va.
Non.
Mais par contre, ils arrivent à retenir leurs adversaires sous un nombre
ils
de
font
points incroyable.
Ils font déjouer l'adversaire, ouais, clairement.
Alors arrive la traditionnelle finale ouais. de conférence, Pistons-Bulls. En fait, c'est toujours décidé, hein. C'est toujours comme ça.
Et on est déjà en 2003. Hein.
Bah, quand et là, les Bulls, il y a quelque chose qui a changé quand même. Malgré tout, c'est l'entraîneur. Alors, ce n'est plus Luke Collins qui est là, c'est Phil Jackson. Phil Jackson, c'est l'entraîneur qui sera 6 fois champion de NBA avec les Bulls. C'est celui qui sera ensuite 5 fois de plus avec les Lakers, notamment où il y aura un certain Kobe Bryant. Et c'est un entraîneur qui a, qui a révolutionné dans son style le jeu, puisqu'il va faire ce qu'on appelle, on ne va pas expliquer de façon très technique, mais en gros, le jeu en triangle où il y a des changements de position par les joueurs, ce qui fait qu'ils sont extrêmement durs à marquer, ce qui fait que ça peut être problématique
ouais.
pour les Pistons, parce que là où les Bulls ont essayé d'être, de faire un combat physique l'année d'avant, là, ils offrent un combat
stratégique
et stratégique, ouais. où peut-être on se dit alors que les Pistons ne vont pas suivre parce que leur défense va être éparpillée.
On passe sur une révolution un peu stratégique et effectivement, le jeu même est difficile à cerner même pour un public qui a l'habitude de regarder la NBA, mais cette fois-ci on est sur une lecture beaucoup plus offensive. C'est un peu une révolution que Jackson propose. On est sur un jeu à 3 et d'un point de vue de la mobilité offensive, ça remet en cause beaucoup de choses sur les équipes qui, justement, comme les Pistons, misaient beaucoup sur l'effort de guerre, entre guillemets.
Et d'ailleurs, donc, cette finale va être assez serrée,
ouais.
puisqu'il faudra aller au terme du 7e match pour que les Pistons emportent la victoire, encore une fois, contre les Bulls. Et cette fois-ci, ils vont en finale contre eux.
Ils vont en finale contre Portland, les Portland Trail Blazers.
Les Blazers.
Clyde Drexler. Donc là, on est sur une équipe, non pas une équipe surprise, parce qu'elle a fait une excellente saison, mais on était habitué en finale depuis 10 ans à toujours voir les Celtics ou les Lakers. Et bien quand même, non, là on change.
On change un peu de dynastie. Et alors, Isaiah Thomas, qui a été pas très consistant hein, sur les matchs contre les Bulls, pas très bon au début, bien meilleur. Là, il va vraiment tenir son rôle
de leader.
Lors de cette finale.
Il est le joueur clé. Il redevient un petit peu moins altruiste. On vous a beaucoup parlé de cette équipe très complémentaire, de cette équipe sans vraie star. Et bien là, en fait, c'est un peu l'ironie de cette finale. Ils vont surclasser Portland en 5 matchs, 4 victoires à 1. Et ils vont le faire parce qu'ils ont un joueur qui...
Incroyable.
Et au-dessus du lot, littéralement au-dessus du lot.
Et vraiment, donc, ouais, au meilleur de ce qu'il a pu être dans sa carrière.
Et ils vont remporter donc leur 2e titre NBA à la suite, grâce à ce joueur redevenu hors norme sur toute la série.
Et donc c'est ce qu'on appelle le back-to-back.
Ouais.
Ils sont champions 2 années d'affilée. Et comme on adore entendre les gens qu'on aime bien gagner, écoutons-les gagner.
Time for the Blazers. Buck Williams will trigger the ball in.
Every time this, the clock doesn't start until it touches someone's hands.
Buck there Williams
it is.
There it is.
Can't touch this.
The Pistons are winners and still champions of the world. The Pistons repeat. And the Motor City still reigns supreme in NBA basketball. A miraculous final 2 minutes from the microwave. Vinny Johnson gives the Pistons their 2nd consecutive NBA crown.
Alors j'ai envie de vous dire, on est bien contents.
Déjà on est bien. Moi je suis bien avec vous.
On
je suis bien.
Bien
avec les Bad Boys. Vous savez quoi, je resterai bien longtemps comme ça avec vous, avec ces petits biscuits, avec cette aloe vera,
avec cette aloe vera,
avec la tisane au gingembre de Younes qui s'est endormi depuis une heure et quart.
T'as mieux prononcé le nom de Kiki que l'aloe vera.
C'est oui.
Alors t'es moins de consonne.
Alors en tout cas, les Bad Boys ont montré toute l'étendue de leur talent. Ils sont 2 fois champions, j'aime bien dire, du monde, presque, mais bon, oui. Les États-Unis, c'est comme le monde, c'est pareil.
Dans nos cœurs, en tout cas.
Tu peux le dire.
Et ils vont être donc en lice pour un triplé La saison suivante, malheureusement, leurs espoirs vont s'évanouir face aux Bulls en 91 lors de la finale de la conférence. Ça y est, les Bulls tiennent leur revanche finalement et ils vont d'ailleurs écraser, je crois, les Pistons.
Mais dis-moi, c'était un sweep à l'horizon. Et nous remercions notre sponsor Swiffer pour le sweep des Pistons. Et non, le sweep des Bulls et face aux Pistons. 4 victoires à 0.
Il y a une véritable leçon qui est tirée entre guillemets par les Bulls et par surtout Michael Jordan, qui décide effectivement de muscler son jeu. Et
Comme Robert.
Tout à fait.
Il a clairement étoffé sa musculature. Il est aussi entouré maintenant d'une équipe qui est un peu plus aguerrie. Et c'est un peu finalement ce qu'on disait au tout début de cette émission.
Il y a 6 heures.
La circonstance et l'adversité que les Pistons ont proposé aux Chicago Bulls, qui ont créé entre guillemets cette mentalité et forgé les Bulls qu'on va connaître pour plus tard comme étant l'une des plus grandes équipes qui ait jamais existé en NBA.
Oui, c'est le passage de relais un petit peu.
Exactement, un petit peu, ouais. J'allais dire le flambeau, mais c'est pas quasiment pareil.
Pas vraiment de passage, vu que les Bad Boys vont quitter le terrain avant la fin et sans saluer leurs adversaires, ce qui est vraiment très
j'adore.
Fair play.
Ouais,
c'est Bad Boys jusqu'au bout.
Sinon, ce serait des Good Boys et on n'aime pas les Good Boys,
mais non,
par Sarah.
J'aime beaucoup les bons garçons. Bon, beau, tout. Riche aussi.
Oui, surtout.
Peut-être dire un mot, donc le All-Star Game de 92, on va quand même retrouver Isaiah Thomas, Joe Dumars, et Denis Rosemann.
Denis Rosemann.
En revanche, j'en dis un petit mot, même si Olivier t'en a déjà parlé tout à l'heure, pour la Dream Team de 92 au JO à Barcelone, donc une équipe absolument exceptionnelle, l'équipe de basket.
Ouais, on fera un épisode là-dessus.
Voilà, des États-Unis avec Michael Jordan, Larry Bird, Magic Johnson.
Michel Blanc.
Mais il y aura. Alors,
Jean-Louis Sochaux.
Presque zéro piston, puisque donc on dit que Magic Johnson aurait savonné la planche à Isaiah Thomas. Bon, tout
Jordan
ça,
aussi,
et Jordan aussi, tout ça n'est pas très clair.
Pour plein de raisons, mais ça demanderait trop de temps pour les exposer.
Exactement,
prochain
épisode. Il y aura quand même un piston, en fait, puisque Chuck Daly sera, je crois, l'entraîneur de cette Dream Team. Donc, vous regardez tous circonspects, donc vous espérez que je dis pas de conneries.
Non, il reste un piston et avec un piston, ça roule.
Et donc, dans les années qui suivent, on va avoir la retraite sportive ou le départ de nombreux joueurs clés. Et donc, forcément, cette équipe va un peu s'étioler, comme on dit.
C'est un peu la dépression, après, dans les années d'après. D'ailleurs, il y a un joueur qui va caractériser ça, c'est Dennis Rodman qui va complètement rentrer en dépression. On parlera même à un moment donné d'une presque tentative de suicide dont il a eu l'idée. D'ailleurs, j'en profite, on le dit maintenant, il y a une émission qui, si vous avez bien aimé tout ce qu'on raconte, puisqu'on va oublier de le dire, puis après on va faire notre propre promo, qui s'appelle Les Chroniques de Motor City, qui est un podcast, je ne sais pas quelle est la fréquence, c'est Wilson qui raconte ça. Et
c'est sur l'histoire
des Pistons,
c'est dédié aux
Pistons. 1950 même avant jusqu'à maintenant, et c'est ultra bien documenté, c'est du 15-25 minutes.
Il parle des Bad Boys.
Il parle non seulement des Bad Boys, mais aussi des autres, autres périodes
historiques de la franchise.
Donc, si vous avez envie d'en savoir plus, si vous êtes un peu plus calé et curieux, n'hésitez pas à écouter ce podcast.
Oui, en tout cas, nous, ça nous a bien aidé dans la préparation. Oui. Et moi, j'ai appris vraiment énormément de choses.
Merci, Wilson.
Bref, en deux mots, ils sont bien meilleurs que nous. Donc, arrêtez d'écouter ce podcast.
C'est ça qui était c'est Michael Jordan, en fait.
En tout cas, Chuck Daly s'en va en 93. Ouais. Bill Laimbeer se retire. Ensuite, Isaiah Thomas. Denis Rodman va rejoindre une autre équipe. Enfin, bref, tout le monde s'en va. C'est la débandade. Et il faudra quand même attendre 2004 pour que les Pistons redeviennent
champions. Une équipe de premier plan.
Avec des joueurs magnifiques. Avec Ben Wallace, avec Rip Hamilton.
Bill Epps. Michael
Billups.
Très bien. Et mais ça va pas, ça va être un titre et puis c'est tout. Maintenant, les Pistons, c'est un peu plus dur, c'est un peu plus difficile.
Ils ont même
leur stade est nul.
C'est un peu malheureusement à l'image de cette ville qui est un peu le symbole un peu de la décrépitude américaine. Détroit et son fleuron entre guillemets industriel qui est devenu une véritable ruine. Bon,
je te trouve très dur avec les Pistons et je n'aime pas du tout qu'on finisse sur cette note négative. Moi, je voulais dire.
Mais c'est la réalité, Sarah.
Champion un jour, champion toujours. Vive les Bad Boys.
Ouais, t'as raison.
Et
allez,
c'est l'heure de l'anti-doping.
J'étais sur la liste des joueurs qui passaient au contrôle anti-doping. Donc, il fallait faire la petite chose.
Maintenant qu'on a enfermé définitivement Michael dans les toilettes, peut-être qu'on peut changer cette jingle, non?
Je crois pas. Il fait la même chose aux toilettes, hein, donc c'est une sorte d'hommage.
Si on change le jingle, je perds ma place. On va le garder.
Et c'est Chloé qui s'est collée à l'antidoping.
Donc déjà, il faut savoir que ce jingle paraît encore plus long lorsque c'est moi, par exemple, qui dois faire l'antidoping. Ça me paraît toujours plus long, oui. C'est très compliqué. Alors, puisqu'on parle de sportifs capables d'agressivité pour arriver à leur fin, je ne pouvais pas ne pas parler de quelqu'un dont on me reproche de ne pas assez parler, puisque ce n'est autre que Mark Marquez, the man of the hour. Et oui, puisque les débuts en compétition de Marquez n'ont pas été calmes et sereins comme une petite rivière dans l'immensité de l'océan. Et oui, on l'a déjà dit dans l'épisode sur la MotoGP, et je dis la MotoGP comme je dis la Game Boy, et je vous n'allez rien faire contre ça. Très bien. Alors, très jeune, en 2013, Marc Marquez fait une entrée, on va dire que c'est plutôt fracassant en catégorie reine de la compétition. Des chutes, des actions de course dangereuses aussi bien pour lui que pour ses confrères, Marquez tente le tout pour le tout à chaque course. Une méthode plutôt efficace puisqu'il gagne sa première course dans cette catégorie dès la deuxième étape sur le circuit des Amériques, battant au passage le record de Freddie Spencer. Mais qui sème le vent récolte la tempête. Car quelques semaines plus tard à Jerez, lui et Lorenzo, mon deuxième préféré, vous le savez très bien, se touchent lors d'un dépassement.
Quoi ?
Attends, comment ça ?
Comment ça ?
Se touchent.
Bah Chloé.
J'espère qu'il y a les images.
Oui, on vous montrera les images.
On va mettre des liens en description, oui, voilà. Y a aucun souci. C'est que Lorenzo ne pourra jamais vraiment oublier. Hein, je pense que se faire toucher par Marquez, je n'oublierai pas non plus. Hashtag c'est la faute à Marquez. C'est ensuite son propre coéquipier Dani Pedrosa qui souffrira de l'impatience de son jeune ami. Car les deux pilotes...
L'impatience.
Et la fougue de Marquez. Je peux en trouver plein, mais j'ai pas très envie. Donc ils vont se toucher eux aussi pendant le Grand Prix d'Aragon. Décidément, ça n'arrête pas.
Mais c'est génial la MotoGP en fait.
Tu comprends pourquoi j'adore ce moment.
Mais bien sûr.
Touche tout le temps. C'est
plein d'hommes forts qui se touchent. Génial.
Ah, attends, faut que je respire. Donc durant cet attouchement, le capteur de contrôle de traction du petit samouraï est sectionné. Le
c'est terrible. C'est terrible. Le pauvre capteur.
Le petit samouraï. Je comprends pourquoi j'ai jamais eu le droit de faire cette chronique.
Vrai, Alors je vais redire cette phrase et on va tous se concentrer. Le capteur de contrôle de traction du petit samouraï est sectionné, le projetant dans les airs. Et c'est contrairement au stylo d'Olivier, c'est une des rares fois où Dani Pedrosa ne se cassera pas quelque chose. Même Casey Stoner, l'homme zen par excellence, a un avis tranché. Quelques pilotes devraient se calmer, comme Olivier aussi. J'ai un grand respect pour Marc, mais cette année, il ne respecte pas ceux qui roulent. Il est en train de très bien faire. Il va gagner le championnat du monde, mais il devrait être plus correct et respectueux.
Arrêtez de
et
toucher les gens.
Arrêtez de les tripoter comme ça suffit. On rappelle que c'est quelques mois plus tôt qu'avait été instauré un permis à points pour les pilotes dont l'objectif numéro 1 était de calmer Marc Marquez. En Australie, il est exclu pour ne pas s'être arrêté selon les consignes. Donc ici, c'est plutôt un problème de communication avec son équipe au sol qui est invoqué. Mais évidemment, fallait que ça tombe sur lui, le seul de la compétition. Début 2014, il se fracture le péroné et est privé de tests en début de saison, mais il est ensuite le plus jeune pilote à remporter 5 victoires d'affilée, d'enchaîner les pole positions, de battre de nouveaux records, donc déjà celui de Mike Helwood, ensuite celui de Rossi, ensuite celui d'Agostini, ensuite celui de McDowan, ensuite celui de Casey Stoner. Et on lui dit enfin de se calmer quand il dit qu'il pourrait refaire tout ça les yeux fermés. On lui dit quand même, calme-toi.
Ouvre-les, s'il te plaît.
Ouvre-les, c'est mieux.
Calm down.
Son style
calm
de
down.
Pilotage.
Toi, tu vas encore casser un capteur.
Capteur de traction, attention.
Il faut faire attention aux freins, surtout.
Oui.
Ne jamais le sectionner.
Son style de pilotage, même si jugé agressif, sera au fil du temps copié et assimilé par tous. Le genou et le coude qui raclent le bitume.
Le genou et le coude, carrément, non mais attends.
Bah écoute, quand t'as fini de tripoter, à un moment, faut passer à autre chose. Il semble défier les lois de la gravité et il gagne ainsi son surnom d'extraterrestre. Que je trouve pas terrible. Mais les tensions seront à leur apogée en 2015. Il décide de viser haut et collera au basque de Rossi, notamment en Argentine, à Assen et finalement en Malaisie, le point culminant de cette rivalité, où Rossi finit par pousser la moto adverse du pied et Marquez finira au tapis.
Malaise en Malaisie.
Bien joué. Si depuis l'espagnol semble plus apaisé et vouloir faire amende honorable, il reste aujourd'hui encore catégorisé comme un danger public. On se rappelle qu'en 2018, il a fait tomber Rossi et lorsqu'il a voulu lui serrer la main en conférence de presse, il lui a gentiment dit d'aller se faire voir. Et c'est d'ailleurs ironique car c'est ce côté casse-cou et flirtant avec les limites qui lui ont fait taper dans l'œil des gars de chez Honda lorsqu'il a été recruté. Et aujourd'hui, il court toujours pour eux avec son frère Alex, qu'on salue et qu'on encourage pour ses premiers
salut
pas
Alex.
En
salut
catégorie
Alex.
MotoGP.
N'hésite pas à toucher, visiblement, tu peux aller loin.
Je fais juste un petit annoncement, mais ni cet anti-doping, ni cet épisode n'ont pour but de glorifier les hommes qui dépassent toutes les limites du respect et du fair-play. Mais le sport de haut niveau prend toute sa saveur quand les autres athlètes utilisent toutes les ressources, parfois jusqu'aux limites de la bienséance. Et nous, en face, tout ce qu'on peut se dire, c'est est-ce que moi, j'aurais été capable d'aller aussi loin ?
C'est ça, les bad boys !
C'est beau !
Avec ou sans capteur de traction.
Merci beaucoup,
et petit
Chloé.
Samouraï, j'aime
merci,
beaucoup.
Chloé.
Alors, ce qui me fait peur, c'est que j'ai peur qu'à chaque fois que maintenant, on demande à Chloé de faire l'antidoping, elle le fasse sur Marc Marquez quand on va faire le curling. Et justement, l'un qui adore balayer, c'est Marc Marquez. Vraiment, il...
Et c'est le sweep ! Ah non.
Non, il faut savoir qu'avec Maradona, qui joue Marc Marquez.
Ne m'échauffe pas.
En tout cas, c'est merci beaucoup Chloé. Merci à tous pour cet épisode peu long mais passionnant, je l'espère.
Oui, enfin, on espère. Hein, oui.
Est-ce que vous avez des choses à dire aux gens avant qu'on se quitte ?
Bon, on va faire de la promo.
Allez, de la promo.
Alors déjà, un truc, on a parlé NBA, on a parlé basket, on n'a pas parlé de Kobe. Vous êtes nombreux à nous avoir demandé depuis quelque temps de parler de Kobe Bryant. On a décidé de ne pas le faire parce que c'était un peu dur pour nous de jongler comme ça sur l'actualité. On en fera une bien et belle émission probablement un peu plus tard. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que Younes est vieux, mais ça, vous le savez, donc ça n'a rien à voir. Et la troisième, c'est que continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux. On lit tous vos petits mots. Ça nous fait très plaisir.
Très plaisir.
On lit toutes vos suggestions.
Toujours.
On a un tableau à l'image des copains de 2 heures de perdu que l'on met à jour avec les propositions de sujets. On va piocher de temps en temps dedans. Mettez-nous 5 étoiles, un petit commentaire, Instagram, Facebook, Twitter. N'hésitez pas à suivre les podcast copain, à savoir 2 heures de perdu, mais ça je crois que vous connaissez, mais aussi Culture 2000, et un petit nouveau qui n'est plus trop nouveau maintenant, mais qui commence à faire un nom, c'est-à-dire 20 minutes avant la fin du monde, un petit podcast écologique et nécessaire sur notre survie.
Eh ben, je crois que Olivier a à peu près tout dit. Peut-être, comme ça en a été un tout petit peu mentionné sur les réseaux sociaux, gardez les oreilles ouvertes, peut-être qu'on vous prépare une petite surprise pour la fin de l'année, donc on vous en parlera dans le prochain épisode,
oui,
je
car
pense.
On essaye d'inviter Marc Marquez à l'émission.
Et puis sinon, au revoir à tous et au mois prochain.
À bientôt.
Salut à tous. With Don figures, real niggas, fingers on nickel-plated non-triggers. Must see my enemies defeated. I catch them while they coked up and weeded. Open fire, now them niggas bleeding. See me in flesh and test and get your chest blown. Straight out the west, don't get blown. My adversaries cry like hoes, open and shut like doors. Is you a friend or foe? Nigga, you ain't know. They got me stretched out on death row. I seen money, but baby, I got to get more. You screaming, go to pop, and I ain't stopping till I'm well paid. Bills paid now, nigga, look what hell made. Visions of cops. Sirens, niggas open fire, bunch of thug life, niggas on the ride until I die. Ask me why I'm a boss player getting high, and when I'm rolling by, niggas can't see me. The stairs of a million pairs of eyes, and you'll never realize you can't. Big getting words at these square motherfuckers with nerves, saying they can get with us, but picture me getting served. My own mama say I'm thugged out, my shit be popping out the record store as if it was a drug house. My lyrics bang like a crib of blood, nigga what? It ain't nothing but a party when we thug. And there I was, a young nigga with hope, ain't had shit to lose, pulling my pistol on the fools. You know the rules, D-R-E, you got me heated. My words like a penitentiary dick, hitting bitches when it's most needed. Money and weed, Alize and Hennessy, to my thug niggas in lockdown, witness me. Bail on these hoes and floss mode, the life of a boss player. Fuck what you thought though, my enemies deceased. Die like a bitch when my album hit the streets, niggas can't see me. Niggas can't see me.
Which way did he go, Joe? Which way did he go?